il y a deux consignes, vous coupez les portables, vous ne les jetez pas à la fenêtre si vous voulez, et vous ne parlez pas. Voilà, c'est un point, c'est pas très compliqué, même passe-moi le sel, parce que je vous le répète, ça freine, ça me demande tout de suite un surcroît d'énergie pour retrouver le fil. Hein, même si vous croyez que je ne vous ai pas entendu, bon, c'est comme ça, c'est les trucs des prédicateurs. C'est bon? Alors, comme c'est la dernière séance sur les fins dernières, je dédicacerai mon livre. Donc, 14 euros, c'est donné, quoi. En plus, vous ne payez même pas le port. Donc, même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez le prendre et puis vous enverrez le chèque au couvent. Parce que en le regardant, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses assez intéressantes là-dedans. Non, mais c'est vrai, hein. Surtout sur le ciel. Ce n'est pas un sujet facile, mais j'ai tâché d'améliorer le ciel. Enfin, bon, la présentation que je vais vous en faire ce soir. Je vous ai donné une petite feuille. Vous avez une bibliographie à la fin. Ça vous indique ainsi un peu la façon dont on fait pour préparer ces cafés cathés. Donc les références dans le magistère de l'Église. Et puis les théologiens, les grands théologiens. Alors ça, vous les indiquerez à votre copain qui fait une licence de philo ou de théologie. Ou bien vous irez voir vous-même. J'ai indiqué que des textes en français, hein, que ce soit les théologiens ou les auteurs. Spirituel comme Sainte-Catherine de Sienne, la référence est très courte, vous pourrez le lire, c'est très beau. Et puis pour les gens un peu poètes, Dante évidemment, toute la troisième partie, alors vous pouvez le lire par petits morceaux. Et puis bon, quelques théologiens plus récents, comme Romano Guardini, qui est un homme très profond, qui a beaucoup marqué le Joseph Ratzinger. Et puis ensuite Abrad, un prêtre melkite, qui a écrit très belles choses sur les fins dernières, vues dans les perspectives de la théologie grecque. Et enfin, moi-même et le père Bott du diocèse de Versailles, qui a écrit un livre assez amusant, enfin, qui est bien fait, un peu échevelé, un peu poético-échevelé, mais bien stimulant, sur le paradis. C'est le troisième de sa série, L'Enfer, le Purgatoire, le Ciel. Voilà. Donc voilà pour la bibliographie. Alors, on va essayer de parler du ciel. Donc, c'est la véritable fin dernière. C'est le but ultime de l'homme tel que Dieu l'a créé concrètement. Dieu aurait pu faire autrement, Dieu aurait pu faire des hommes qui n'auraient pas destiné à la vision béatifique, mais en fait, dans sa sagesse, il a créé les hommes pour les unir à lui. Et donc on va voir en trois points, on va essayer une approche du mystère du ciel. Le père Bott insiste surtout sur l'aspect paradisiaque, l'aspect sensible, à juste titre, qui est un peu oublié. Et nous, donc, on va faire un peu à l'envers de l'ordre que je prends dans mon livre sur les fins dernières. On va commencer par le plus difficile et on va terminer par le plus facile. Donc, comme ça, si vous êtes un peu dans les vapeurs de la Cronenbourg ou de la Heineken vers la fin du truc, vous pourrez quand même un petit peu capter. Bon, donc, on commence par le plus difficile. Alors, accrochez-vous un peu. Mais je vais essayer d'en dire quelque chose un peu en balbutiant parce que c'est vraiment un sujet très difficile et en même temps très suggestif. Si vous lisez l'encyclique du pape, parce que c'est pas interdit de lire les encycliques du pape, c'est pas strictement défendu, vous apercevrez que les deux petits numéros que j'ai mis en référence, il a un discours assez apophatique sur le ciel. Il dit au fond, le ciel c'est ce qu'on désire, on désire autre chose que la vie d'ici-bas, mais au fond c'est pas ce que c'est que cette vie. Enfin, il s'appuie sur saint Augustin, qui est son grand maître, qui a un très beau passage, c'est ses numéros 10 à 12, de son encyclique sur l'espérance. Alors il insiste davantage sur ça, ça ne veut pas dire qu'il nie le reste. Il faut faire attention quand on lit des textes du pape, quand le pape écrit un texte comme pape, il suppose, en parlant, il admet tout le catéchisme de l'Église catholique par définition. Et là vous trouvez des passages beaucoup plus explicites sur ce que l'Église a déjà enseigné. Mais c'est bon d'introduire par là parce qu'il fait remarquer qu'il y a une difficulté, la vie éternelle, c'est une expression un petit peu délicate à manier, parce qu'on se dit, bon, éternel, on va s'ennuyer. Hein, c'est le réflexe des gens, mais éternel, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, comme disait je ne sais quel humoriste anglo-saxon, bien entendu, je ne sais plus lequel, des gens cultivés savent qui a dit ça.
Woody Allen.
Woody Allen, voilà. Donc il disait ça, c'est long vers la fin, et puis la vie, bon, bah, la vie telle qu'on l'a ici, c'est casse-pied, quoi. Enfin, c'est sympa un peu de temps en temps. Mais habituellement, il y a quand même beaucoup d'ennuis. Donc la vie éternelle, ça fait un cocktail un petit peu détonnant et on se demande un petit peu ce que c'est. Mais cependant, il faut maintenir cette vocable parce que le Christ lui-même l'a employé et saint Jean disant la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Alors, c'est le premier point qu'on va voir. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu dans quelque chose qu'on appelle la vision béatifique. Après, on verra qu'il y a un aspect commun et social c'est un acte non seulement des individus, mais de l'humanité sauvée autour du Christ. Et enfin, on verra son aspect sensible, cosmique, corporel, qui est la Jérusalem, qui est le paradis céleste, avec des choses assez suggestives et sur lesquelles, je crois, il faut s'arrêter, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez dans la prédication classique sur les fins dernières. D'ailleurs, la prédication sur les fins dernières, il n'y en a plus beaucoup. Hein. C'est ce que fait remarquer justement Ratzinger lui-même, il y a 20 ans, dans une importante conférence aux évêques d'Europe. Donc, la vie éternelle, il ne faut pas la concevoir comme une espèce de succession continue de jours à n'en plus finir, vous voyez. Parce que c'est vrai que si on prolongeait notre existence telle que nous la vivons indéfiniment, ce serait vraiment une vision de cauchemar. Hein. Je sais bien qu'on va vers une société de vieux où le nombre des gens qui ont plus de 90 ans et plus de 100 ans augmente, au moins dans la sphère plus performante économiquement du monde. Mais on voit, bon, c'est pas forcément que des aspects positifs, ça aussi la sagesse, des vieillards, mais d'ailleurs on les écoute pas, donc c'est un peu ennuyeux, mais enfin bon, mais ça pourrait avoir cet avantage-là. Mais c'est vrai que nous-mêmes, si on se disait métro, boulot, dodo, ou même une retraite de 112 ans, bon, bah, quand même, souvent à la retraite, il y a un peu une crise, on se dit quoi faire, enfin, chose nous, parce que nous, on n'a pas de retraite, ça qui est bien, dans la profession, sauf quand on n'aurait plus rien faire, là, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne conçoit pas que ce soit un bonheur, comme il y a du bonheur dans notre existence, mais on voit bien qu'il est quand même circonscrit à certains moments. Bon. Donc, c'est pas une indéfinité, si vous voulez. Et il faut se garder de cette image-là. C'est pour ça qu'il faut, tout de suite, j'ai commencé mon exposé en tâchant de réagir pour nous mettre un peu, autant qu'il est possible, et c'est pas tellement facile, sur la voie de ce qu'est l'éternité. Hein. Donc, je vous ai mis une citation de l'encyclique de Benoît XVI qui présente ça comme un moment où nous sommes embrassés par la totalité. Il emploie des termes assez généraux, un peu vagues. C'est une approche un peu phénoménologique dans cette partie de l'encyclique, et c'est utile aussi. Mais voyez, il faut savoir faire son bien de toute chose. Cette encyclique ne gomme pas le catéchisme de l'Église catholique et réciproquement. Vous voyez, je crois que le tort de certains catholiques qui veulent réagir contre la désobéissance vis-à-vis du magistère, c'est de prendre de façon exclusive au pied de la lettre la dernière parole que le pape a dit. Il faut l'écouter, il faut l'enregistrer, il faut la méditer, mais toujours dans la continuité de ce qu'il a dit avant, ce qu'ont dit ses prédécesseurs, bien entendu. Sinon, ça perd sa saveur, et autant faire du journaliste plutôt que de la théologie, quoi. Que les journalistes se précipitent sur ce qu'il peut y avoir d'un peu croustillant, d'un peu différent. Donc là, c'est une approche un peu phénoménologique, c'est pas, et c'est vrai, c'est pas une succession, c'est un moment où on est embrassé par la totalité, et on l'embrasse. Ça va, Pierre-Edouard ? Donc, non mais quand je vous dis de ne pas parler, c'est sérieux. C'est le seul luxe que je vous donne, la grâce que je vous demande, avec éventuellement de faire un petit don à la fin. Mais si vous voulez que la machine continue à fonctionner, bah, respectez son mode d'emploi. Bon. Alors, merci, voilà. Et c'est le moment où nous sommes immergés, nous dit Benoît XVI, dans l'océan de l'amour infini, dans lequel le temps n'existe plus. Parce que le temps, si vous voulez, c'est vraiment une mesure du mouvement. Et le type de mouvement que nous avons ici n'existe plus dans l'éternité. Donc, dans l'éternité bienheureuse dont nous parlons, nous avons une durée, mais elle n'est pas le temps continu des êtres corporels que nous sommes. Elle l'assume, elle ne le supprime pas complètement, on va le voir d'une certaine façon, mais elle le transfigure, et l'éternité en elle-même, c'est quelque chose de différent, c'est notre branchement, en quelque sorte, sur la durée même de Dieu. Mais c'est quelque chose de très mystérieux, chaque être a sa durée, les hommes ont la leur, les anges ont la leur, on en a parlé un petit peu quand on a parlé des âmes séparées, et puis Dieu a la sienne. Et Dieu est le seul être pleinement et totalement éternel. De même qu'il est le seul être pleinement et totalement et réellement et positivement infini. Eh bien l'éternité, c'est une participation à cette durée de Dieu. C'est-à-dire que on va rentrer dans l'espace de... un espace de rencontre avec la Trinité, et on va y rentrer par quelque chose que l'Écriture nous a enseigné, parce que notre participation à l'éternité est révélée. C'est vrai que nous pouvons être aidés en réfléchissant philosophiquement à ce qu'ont pensé les philosophies anciennes, à aussi ce que disent les religions qui ne sont pas les religions chrétiennes. Il y a un certain fond commun de bon sens, mais on s'aperçoit que pour beaucoup de ces religions, au fond, après la mort, les choses continuent en mieux, quoi. Les chasseurs continuent à chasser, les guerriers à combattre. Et seulement ils attrapent plus de prises, et ils galopent là, dans le paradis de Wotan, ou je sais pas quoi, enfin chacun selon. Mais c'est une sorte de vie humaine qui continue, vous voyez, ou bien c'est quelque chose de diminué, comme on le voit dans la conception de l'Hadès des anciens Grecs et des Romains. Il y a bien une certaine existence, mais qui est flottante, enfin, c'est une espèce d'indéfinité qui continue. Tandis que la révélation, nous dit que l'éternité, c'est vraiment une communion avec Dieu, réalisée par une vision face à face. On appelle la vision faciale, et la vision du seul vrai Dieu. Ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le Dieu lui-même, vu tel qu'il est, c'est-à-dire vu non pas comme nous pouvons le voir ici-bas dans le miroir des créatures, nous connaissons Dieu dans le miroir des créatures, ou nous connaissons Dieu dans le miroir, encore mieux, dans le miroir révélé de l'Évangile, dans les paroles du Christ, parce qu'il nous parle et nous enregistrons ce qu'il dit. Voilà. Donc, mais c'est une vision face à face, c'est-à-dire, madame, parce que sinon je continue pas à parler. Donc, c'est une vision face à face, c'est-à-dire vraiment le contact, si vous voulez, on prend l'image de face à face, parce que nous autres, pour faire de la métaphysique ou de la théologie, on est obligé de partir des sens, hein. On est obligé de partir des réalités sensibles qui nous sont accessibles, quitte après à les sublimer, à les transformer, à laisser leurs limites et à passer à ce qu'elles peuvent véhiculer d'essentiellement intéressant, d'essentiellement fort. C'est ce qu'on fait déjà dans la recherche de l'être, mais c'est ce qu'on fait également quand on veut réfléchir sur le mystère de Dieu, on prend des images. Quand je suis face à face avec l'être que j'aime, ben j'ai un contact privilégié avec lui, et c'est de ce type de contact qu'il est question dans notre communion éternelle avec Dieu, dans la vie éternelle. Et pour avoir ce contact-là, il faut évidemment que l'homme ait la capacité de rentrer dans cet espace de Dieu, dans cette durée de Dieu, et qu'il soit donc transformé. Saint Jean, dans l'épître que j'ai cité ici, j'ai mis des petites références en corneux, pour y avoir un peu plus petit pour gagner de la place. Donc la première épître de Saint Jean, chapitre 3, il dit « Nous le verrons tel qu'il est, ce que nous sommes n'est pas encore révélé, nous sommes les fils de Dieu, mais quand il apparaîtra, ça sera révélé, nous lui serons semblables. » Et pour voir Dieu, il faut ressembler à Dieu. Parce que pour voir, il s'agit évidemment d'une vision spirituelle. Pour faire un acte spirituel qui nous connecte avec le disque dur de Dieu, si j'ose cette image alors là vraiment très épaisse, mais que je soutiens jusqu'au bûcher exclusivement, comme vous savez, comme disait notre père François Rabelais, quand il avançait des trucs un peu douteux, il en a mis un certain nombre, jusqu'au bûcher exclusivement. Donc en fait, si vous voulez, si nous voulons nous brancher sur le temps de Dieu, sur la durée de Dieu, eh bien, il faut que nous soyons divinisés. Et c'est pourquoi ce qu'on avait dit dans les autres cafés cathés pour les vieux de la vieille du café cathé, on avait parlé de la grâce sanctifiante qui nous divinisait et qui faisait de nous, par participation, on reçoit en nous d'une façon mystérieuse, qui est le sommet du christianisme, cette participation dans la grâce sanctifiante de la divinité, qu'on reçoit au baptême dans notre première régénération, quelque chose qui fait qu'on ressemble à Dieu. Et au moment où on termine le purgatoire, ou juste à la mort, si on va directement au ciel, il y a la seconde régénération, et la grâce explose dans la vie, dans la gloire, et là on devient encore plus semblable à Dieu, vous voyez. Saint Thomas, on a parlé de la transfiguration, dit la transfiguration est le sacrement de la seconde régénération. Le baptême de Jésus au Jourdain, c'est la première, c'est quoi, c'est pas notre baptême. La transfiguration correspond à notre entrée dans la gloire. Et c'est là, la grâce que nous avons reçue au baptême, au moins au baptême de désir, va être transformée en lumière de gloire, et nous allons devenir, autant qu'il est possible à un homme, chacun selon la capacité qu'il a creusée en lui par l'amour, par la charité chrétienne dans sa vie, nous allons devenir divins. Et il y a des textes absolument magnifiques, somptueux, j'en ai cité certains dans mon livre sur les fins dernières. Si vous trouvez le livre du Père Abra chez les bouquinistes ou chez son revendeur, vous trouverez aussi des textes encore plus extraordinaires des Pères orientaux qui parlent de la divinisation de l'âme par la grâce et surtout par la réception de la gloire, cette lumière de gloire qui nous rend encore plus semblables à Dieu, de telle sorte que nous rentrions dans l'espace même de Dieu. Mais je crois qu'il vaut mieux s'exprimer dans ces termes-là plutôt que de dire on va voir Dieu sans cesse, comme si on était assis dans une mezzanine pour voir un film et qu'il y avait une projection indéfinie qui n'arrêtait pas, vous voyez. C'est un acte béatifiant qu'on appelle une vision parce que c'est un acte de l'esprit. C'est un acte de l'esprit fini qui se saisit de l'esprit infini. Et l'esprit, pour se saisir de quelque chose, utilise une faculté qu'il a, qu'on appelle l'intelligence. Et c'est pourquoi la béatitude consiste, d'après l'enseignement du magistère, enfin et surtout tel qu'il est explicité par la tradition réaliste, saint Thomas entre autres, consiste dans une vision spirituelle qui nous fait voir le mystère incréé tel qu'il est en lui-même. Vous voyez, l'idée de saint Thomas, on avait parlé, je crois, plusieurs fois de ce que saint Thomas disait. Le but de la vie de saint Thomas était de répondre à la question « Qu'est-ce que Dieu ?» Et donc, voilà, ben, qu'est-ce que Dieu ? On verra ça au mois de mars, hein, dans les cafés cassés sur Dieu. Enfin, au moins tel qu'on peut un peu y répondre ici-bas. on l'épelle dans le credo, mais on le verra face à face dans la vision béatifique. Et donc là, je vous ai mis une grande citation de Benoît XII, un pape qui avait un peu hésité comme docteur, comme théologien sur le moment de la vision béatifique, qui avait raconté un peu ses positions personnelles en chair. C'est un pape d'Avignon. Il avait été contredit immédiatement par des théologiens, par la Sorbonne en particulier, par des dominicains bien entendu, et il s'était rétracté, là, un peu pressionné, enfin, par les cardinaux. Ben, on peut dire que là, il avait quand même un peu été foireux, quoi. Hein, évidemment, pas dans un acte du magistère, enfin, dans des discours, on voyait donc, un pape peut, dans des discours, favoriser l'hérésie, du moins retarder l'avènement d'erreurs. Il faut le savoir aussi, c'est pas être antipapiste que de dire ça. Parce que je crois qu'il faut vraiment mettre les choses dans la vérité. La vérité est le meilleur service qu'on a à rendre au pape, surtout quand il s'appelle Joseph Ratzinger. Donc je pense qu'il serait d'accord avec ce que je vous dis. Enfin, je ne me risque pas beaucoup à vous le dire parce qu'il a lui-même écrit. Bon. Alors donc, vous voyez, je vous ai mis cette citation de Benoît XII qui s'est fait sonner les cloches et qui, à l'article de la mort, a signé bon, qu'en fait, on voyait Dieu dès l'instant de la mort si on était purifié ou à la fin du purgatoire si on avait besoin de purification sans attendre le jugement dernier. Donc c'est très important parce que même l'âme sans son corps voit Dieu, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une théologie de l'âme, et c'est une des critiques que nous faisons, une des déficiences, une des carences que nous soulignons avec un certain nombre de théologiens depuis 40 ans dans la réforme liturgique, de façon agressive et sympathique, pour justement pousser qu'il y ait une réforme, c'est que dans les traductions du lectionnaire, et bien les traducteurs se sont vantés de supprimer partout le mot « âme », sauf à un endroit où ils ont oublié. Donc chapeau les clowns, c'est vraiment nul, hein, comme, parce que l'âme, c'est pas comme Ratzinger le disait, je vous avais cité les choses, c'est pas une invention grecque, c'est une réalité. Hein. Donc l'âme existe entre la mort et le jugement dernier, et donc l'âme voit Dieu si elle est purifiée directement et totalement. Bon, alors là, comment essayer de se représenter, mais je vais quand même vous lire, ça c'est celui-là. Je vais vous lire quand même deux textes de Gardini qui nous met sur la voie. Oui, Gardini, c'est un homme intéressant. Je vous ai déjà dit que le fait que je le cite est la preuve que je suis parfaitement œcuménique par l'intérieur de la théologie parce qu'il n'est pas thomiste. Mais il est très intelligent, donc ça compense. Hein. Enfin, si vous n'êtes pas assez intelligent, soyez quand même thomiste, ça compense en partie. Hein, bon. Enfin, c'est pour bon, tout ça, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on mette ça sur Internet parce que je vais le faire fusiller. Non, mais alors, et il a beaucoup la démarche, je crois, qui est intéressante, avant d'affirmer le dogme, ou avant de retrouver la grande intuition de la théologie classique, il fait une approche pour essayer de nous aider à réfléchir. Et là, il dit donc, vous voyez, en fait, il s'agit d'un espace, l'homme, du fait qu'il est, il est pluridimensionnel, il a un corps, il a une sensibilité, il a une intelligence et il est une personne. Mais il a un esprit, enfin, tout ça est connecté, mais enfin, c'est quand même des choses distinctes. Et du fait de tout ça, il crée des espaces autour de lui, vous voyez. Et en fait, la vision béatifique, la communion de la vie éternelle, c'est l'entrée dans l'espace ultime de la communion personnelle avec la Trinité. Alors, il décrit, par exemple, il dit, voilà, vous êtes dans une pièce, voilà, vous avez un certain nombre de choses, bon là, évidemment, on a pas mal, quand même un petit peu tassé, mais des choses familières, votre table, votre chaise, etc. Et comme instinctivement, il y a une sorte de réaction, si vous voulez, dans vos neurones et tout, qui fait que vous vous calez par rapport à ça, vous latéralisez, vous êtes dans l'espace des corps. Et c'est pour ça qu'on aime bien d'être habitué, parce que bon, automatiquement, notre instinct se cale là-dedans. Ensuite, vous êtes dehors, il décrit par exemple un paysan le soir après sa journée de travail, le soleil se couche, il fait beau, c'est le moment où on a un peu de temps pour réfléchir, il fait bon, on est assis sur le banc, il y a les petits oiseaux qui chantent, il y a un petit lapin qui passe par là, etc. Et on est en communion, vous voyez, avec la vie, on est soi-même sensible, mais on est dans une communion vitale très agréable avec le monde. C'est l'espace de la sensibilité. Ensuite, il décrit un autre espace, c'est quelqu'un qui réfléchit. Alors, ça s'adresse à beaucoup de gens, même à vous, même à cette heure-ci. Et qui, à force de réfléchir, bon, il prépare, je sais pas, un topo, ou il finit par comprendre quelque chose. Donc, il rentre dans un espace, vous voyez. Enfin, évidemment, ça arrive à pas mal de gens, mais aujourd'hui, peut-être un peu moins, parce qu'avec les 5 heures que vous passez sur Internet, et donc là, vous avez un peu moins de temps de penser. Mais enfin, si vous passez un peu moins de temps, il y a quel moment où on pense, vous voyez, vous lisez un bon bouquin. Vous réfléchissez, tiens, vous retrouvez une réflexion qu'on vous a fait, et vous rentrez dans un espace nouveau. Vous voyez, où le jour on comprend pour la première fois quelque chose que le prof cherche à nous expliquer en philo ou en maths, et on rentre dans une dimension, on nous ouvre des portes, vous voyez. C'est ça, le vrai prof, il ouvre des portes, c'est l'intelligence de l'enfant ou du jeune qui, et du disciple qui va rentrer. Hein, c'est l'espace de l'esprit. Hein, parce que tout d'un coup, voilà comment on parle, je vous cite comment il s'exprime. Soudain, par ce pouvoir de signification qui n'appartient qu'à elle, la vérité jaillit comme ce qui compte, de soi et sans autre raison qu'elle-même, sans dessein ni but, simplement parce qu'elle est vérité. Voilà encore un espace d'un nouvel ordre, en lequel est contenu aussi quelque chose. Cet espace, le royaume de l'esprit, et en lui, il y a mes pensées. Bon. Et alors, maintenant, alors donc, vous voyez, il y a différents espaces dans lesquels l'homme peut rentrer. Et là, il rentre dans des durées différentes. Parce que l'idée de Guardini est de nous faire comprendre que, en fait, la durée, vous voyez, le temps que nous vivons, enfin, les premières durées sont des temps, en fait, est vraiment très, très influencé par mon état psychosomatique, par mon esprit. Vous voyez, tout un instant classique que quand les choses sont ennuyeuses, le temps semble passer beaucoup plus vite. Puis après, quand on réfléchit, on se dit, bah tiens, tout ça a passé comme un éclair. Et au contraire, si c'est bien, ça passe quand même très vite sur le coup. Et puis après, ça nous laisse remplis d'une chose qui peut nous changer pour toute la vie. Vous voyez. C'est quand même très très curieux quand on réfléchit à ça. L'impact, si vous voulez, sur l'esprit de l'homme, de la façon dont son esprit agit. Parce que c'est ça la mesure pour l'homme de la durée spirituelle. C'est le compte, si vous voulez, des actes spirituels qu'il pose par rapport à des pensées ou par rapport à l'enregistrement de sensations, etc. Et là, il y a un troisième. Alors c'est pour cela que je vous dis tout ça. Pour finir ceci, deux hommes se connaissent de longue date et ont mis en commun toutes sortes de travaux et d'expériences. Vous voyez, ou un époux, une épouse, enfin, des amis très anciens, des chercheurs, des sous-hommes qui ont fait 12 ans de campagne ensemble, etc. Dans des conditions difficiles. Soudain, l'un dit quelque chose et l'autre est saisi et pense. Voilà donc qui tu es. Ouais, ça, c'est très beau. Il dit quelque chose, même d'un peu banal, mais voilà qui tu es. Il le voit tout d'un coup d'un regard. Non pas d'un regard qui s'arrête à l'apparence extérieure, un tel regard a toujours été son fait, vous voyez. Ça arrive, vous voyez, que quelqu'un, on l'a côtoyé pendant des années, puis, à un moment donné, un moment un peu intense, ou même fortuit, une phrase de lui, ou une circonstance, et on le voit. Mais enfin, un coup de foot, c'est aussi un peu ça, peut-être. Hein, on s'imagine, enfin, certains d'entre vous le savent. Mais voilà, donc, un tel regard, mais ce n'est pas non plus du regard de la connaissance ou de l'estime qu'il s'agit, vous voyez. Ça ne nie pas, évidemment, il y a connaissance, il y a estime, mais ça va plus loin. Il était attentif à cela déjà, mais d'un regard qui va du jeu au toit, en lequel les personnes savent tout l'une de l'autre. Donc là, il y a un espace qui s'ouvre, qui est l'espace de la communion interpersonnelle, et au fond, ce que Guardini veut nous faire comprendre, c'est que l'expérience de l'amour ou de l'amitié chez les hommes est peut-être une pédagogie très forte pour nous introduire à l'éternité. Parce qu'au fond, l'éternité, c'est ça. L'homme connaît, donc là je vous ai marqué, je vous ai un peu mis ça en résumé, connaît une forme d'exister, c'est toujours Guardini, dans l'espace extérieur, on a vu les corps, dans l'espace de la vie, la sensibilité, il y a tout une aura, une ambiance qui est créée par la musique, etc. Dans celui de la vérité et de la beauté, car il est esprit. Et alors plus profondément encore, assumant tout le reste, hein, parce que l'homme assume toujours, c'est un peu comme les poupées russes, toute chose est gardée à l'état supérieur, mais transfiguré. Hein. Donc, d'une connaissance, donc il y a un autre espace, cet espace de la personne, car il est un jeu et peut devenir tu pour un autre homme. L'éternité bienheureuse, donc ça c'est moi qui parle, mais après on reprend Guardini, c'est l'entrée dans l'espace où le Père et le Fils sont en communion. Mais, dans le prologue de Saint Jean. C'est un texte qui m'a toujours fasciné. Le prologue de Saint Jean, même quand j'arrive en retard à la messe, enfin avant la réforme, vous voyez, que je suis quand même assez ancien. Avant la réforme, même si j'arrivais un peu en retard, je ne partais jamais avant d'avoir entendu le dernier évangile. C'est un texte qui m'a toujours fasciné. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Il y a toute une méditation de Saint Jean de la Croix là, sur le commencement était le Verbe. Donc en fait, au commencement était le Verbe tourné vers Dieu, le Verbe est tourné vers le Père. Hein, la révélation nous dit qu'il y a un espace dans lequel il y a une relation personnelle entre le Fils et le Père, et l'éternité c'est de rentrer dans cette relation autant qu'on le peut. Il y a des textes de Saint Jean de la Croix qui appliquent ça aux états supérieurs de l'union mystique, mais en fait ce sera le propre de la vision béatifique. Donc, ils sont deux à être tournés l'un vers l'autre, donc le Père et le Fils, dans la saisie mutuelle d'une connaissance et d'un amour infini, d'une connaissance qui ne dit pas seulement « je te connais », mais « je sais tout de toi ». Parce que « je te connais », à la limite, ça peut être, c'est ce que vous dit un flic, en vous croisant entre les petits fours et le machin, il vous dit comme ça « je sais tout ». Il continue, puis il va prendre son... Alors vous êtes emmerdés, parce que vous demandez ce qu'il fait, quoi. Surtout si le gars appartient à la DGSE ou au CSU. Et bon, c'est une histoire vraie que je vous raconte, mais c'est plutôt marrant. Mais c'est quand même pour déstabiliser le type, hein. Ça veut dire, je sais tout, ça veut dire qu'il a des indices, quoi. Mais sûrement, il ne sait pas tout. Mais donc quand vous dites là, non, mais là vraiment c'est je sais tout quoi. C'est pas seulement je vraiment on sait tout de voilà le père et le fils se savent d'un amour en lequel chacun est redevable à l'autre de tout ce qu'il est et reste cependant parfaitement libre. Vous voyez là c'est le summum des choses parce que c'est la pleine communion avec la pleine distinction trinitairement mais aussi dans la vision. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est très original parce que dans ce marché supermarché des religions il n'y a pas photo là-dessus. Hein. C'est pour ça que c'est pas à peine d'aller chercher dans des trucs exotiques, enfin, qui quelquefois peuvent être intéressants à étudier. Je ne dis pas qu'il faut mépriser, repousser, ne pas étudier, d'accord. Mais étudier avec respect et prudence, hein, aussi en fonction de nos capacités. Mais on a chez nous, vous voyez, dans notre tradition chrétienne et catholique, surtout telle qu'elle est expliquée par tous les docteurs de l'Église, on a vraiment cette richesse inouïe qui réalise le vœu le plus profond de l'homme, de l'amour, hein, qui est la pleine communion dans la pleine distinction. C'est la communion même qui fait qu'on est soi, vous voyez. Alors c'est un rêve impossible à poursuivre totalement ici-bas. C'est ça qu'il faut faire attention au dérapage des amours humaines parce que ça peut tourner à la possessivité, au harcèlement, voire au meurtre, comme expression de la possession. Mais c'est assez, il y a cette logique un peu blessée, vous voyez. Mais l'idée vraiment c'est d'être totalement, et cette expérience de l'amour peut nous donner une petite idée de ce que c'est que la vision béatifique. C'est pas quelque chose de froid, vous voyez, c'est vraiment l'entrée dans un acte mutuelle de communion, voici l'éternelle intimité divine, du jeu et du toi, l'espace qui naît de cette rencontre, son intériorité, son silence et sa plénitude. Oui. Parce qu'en fait, cette relation père-fils crée le silence. Ça a été beaucoup développé par les pères orientaux, spécialement Denis, le pseudo Aréopagite. Il y a le silence, il termine son grand traité sur un de ses plus grands traités sur les mots que seul le silence peut honorer convenablement la divinité. Et de fait, par rapport à notre façon de nous exprimer, le silence est une louange à Dieu. C'est pourquoi dans notre liturgie, dans notre façon de faire, en fait, toute liturgie, toute parole, tout discours théologique est une ouverture au silence. Et de même, le silence, après, va enrichir et perfectionner. C'est ça qu'on dit que la prédication doit surgir de l'abondance de la contemplation. La parole sort du silence. Oui. Plus le contact est fort, vous voyez, récemment, on a enterré... lundi, chez nous, un de nos familiers qui est mort à 50 ans d'une crise cardiaque, 53 ans, et il s'occupait d'un parcours très particulier, un peu la Benoît Joseph là. Et alors il allait voir des paumés. Il n'était pas très doué au point de vue de communication, mais il était très bon, il faisait beaucoup raison. Il arrivait avec ses gros sabots, mais comme c'était un bloc de prière, il ramenait les types. Et à son enterrement, il y avait un chiite turc, il y avait quelques-uns des paumés qu'on a réussi à faire signe, et souvent ils n'ont pas le téléphone ni l'internet, donc. Mais il y en a quand même une bonne demi-douzaine, vous voyez, c'est beau. Mais parce que, ce que j'ai dit dans les quelques mots que j'ai dit sur lui, j'ai dit, c'est, il arrivait avec ses gros sabots, mais il arrivait avec, il était lui-même une prière, si vous voulez, on voyait tout le temps dans notre chapelle, il était là, qu'est-ce qu'il faisait, il priait, quoi. Ça rayonnait après dans la position d'apostolat chez Drogué ailleurs. Voilà, donc le silence sort de, la parole va sortir du silence, et c'est pareil, vous voyez, quand on cherche à parler de la vision béatifique, hein. Alors, il est clair, vous voyez, que cette vision, vous voyez, j'ai un peu insisté sur l'aspect un peu existentiel de la relation interpersonnelle, parce qu'elle rend un peu plus vivant, si vous voulez, un thème qui, sinon, pourrait rester froid. Vous voyez, je parlais récemment à un des personnes qui travaillent chez nous, et bon, je lui parlais souvent de la mort de notre familier, et je lui disais, il me disait, ben, il est parti, je disais, non, mais il est arrivé. Parce que c'est le mot qu'employait donc Gérard, le fondateur du Barou. Son frère disait, ben, pars pas trop vite, je ne pars pas, j'arrive. Alors je disais ça à la personne, c'est notre informaticien. Et je lui disais, bon, il est arrivé, ah ben non, ça va pas parce qu'on arrive que dans un pays où on a déjà été. Donc on n'arrive pas au ciel. Bon alors j'ai pas eu le temps de lui filer la doc là sur Gardini et tout, mais je lui repasserai après. On arrive, oui, on arrive en Dieu, et Dieu c'est notre patrie, enfin, parce qu'il nous a pensé, et puis même, voyez, on va dire en terminant, on va trouver ce qu'il y a de plus profond en nous, quoi. Donc on ne sera pas dépaysé, si vous voulez. Ou dépaysé dans un bon sens du terme. Si on ne sera pas dépaysé à un sens un peu d'extériorité aguichante, mais au fond un peu superficielle. Là, on sera vraiment nourri de l'intérieur, de ce qu'on attendait en un sens, mais qu'on n'osait pas désirer à tel point. Et alors, entre autres, évidemment, il y a la vision, qui est l'élément le plus profond, si vous voulez, de cette vie éternelle, qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et alors de cette vision, donc de ce contact spirituel avec Dieu, avec la Trinité, découle l'amour, forcément. Puisque c'est un bien total, sans aucune limite. Et plus on connaît les qualités de quelqu'un, plus on l'aime. Hein, on doit aimer sa personne, mais ça c'est mystérieux, ça je crois que c'est possible dans la grâce. Hein. Pour Nietzsche, l'amour du prochain est impossible. Alors, il y a quelque chose de vrai dans la nature déchue. Parce que je pense que les personnes, en fait, bien qu'il y a la, bon, il y a la médiation de la nature du bien commun pour échanger, mais en fait, le contact entre personne à personne, je crois qu'il se fait, enfin, c'était l'idée de Descartes, et je crois qu'il avait raison, se fait concrètement par la grâce, quoi, parce que Dieu nous unit, quoi, de personne à personne. Et il nous disait Descartes, la personne en tant que telle ne fait qu'affleurer dans l'œuvre d'Aristote, dans la, ces grands, très, très grands penseurs. Non, c'est une conquête du christianisme. Non pas qu'elle ne soit pas une réalité aussi naturelle, mais pour, elle est tellement profonde que pour la dégager, il faut vraiment la lumière purifiante de la foi. Et donc là, il y a l'amour. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un couple de jeunes mariés magnifiques, beaux, intelligents, etc. Et bien le même 50 ans après. Enfin bon, c'est une blague, hein, mais bon. Si du moins ils n'ont pas divorcé, ils ne sont pas assassinés mutuellement. Ce ne sera pas très gentil. Bon. Enfin, ce qui est déjà un beau tour de force, quand même, 50 ans ensemble. Hein. Et, mais c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Alors, parce que, tu sais, ils découvrent de plus en plus, et même il y a des. Il y a des éclairs de la personne aussi qui se communiquent de façon un peu ineffable. Ils n'ont plus besoin de parler, voilà. Et c'est vrai, dans une très vieille amitié, c'est comme ça, un regard, un, bon, le simple fait que c'est une veuve qui me disait, bon, bah, quand je le soignais, il suffisait qu'il me regarde, et alors j'avais du courage pour toute la journée. Voilà. Et me disait aussi, finalement, j'aimais même ses défauts. Je dis, oui, ça, bon. C'est pas très théologique, mais on va reprendre ce qu'elle voulait dire, quoi. Bon, mais le veuvage, c'est pas qu'en plus très rigolo, quoi. Mais heureusement qu'il y a le veuvage de la Sainte Vierge pour les veufs, hein, pour s'appuyer là-dessus. Alors, c'est peut-être un peu prématuré pour vous, mais malheureusement, ça viendra. Et, mais il faut pas voir ça de façon uniquement négative. Bon, donc il y a une joie, il y a un amour, bien entendu. L'amour fait partie essentielle de la vie éternelle. Il découle, si vous voulez, parce que, bon, le bien, si vous voulez, là, ce sera un amour, si vous voulez, spontané, vivant, mais qui ne pourra pas ne pas être... livré, enfin, c'est... là, il n'y a pas besoin de forcer les gens parce qu'ils verront Dieu, donc leur cœur adhérera totalement, et de là, il y aura une joie immense, une joie indescriptible en langage humain. Je vous ai mis trois références scripturaires, une dans les psaumes, hein, donc tu nous as abreuvé au torrent, à la cataracte de tes délices, enfin, c'est cité dans mon livre, dans quelques autres. Il y a vraiment comme des images de torrent, si vous voulez, de torrent de montagne qui rompt, si vous voulez, au moment où, où le soleil commence à faire fondre la glace et tout, paf, le torrent éclate à certains endroits. Il y a cette fraîcheur, ce jaillissement, la lumière du soleil, le vent qui irise tout ça. Et ce sera une cataracte infinie. Vous voyez. Alors ensuite, je vous ai mis une autre référence à Romains. L'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Il n'est pas monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. C'est-à-dire que ce que Dieu nous réserve est au-delà de ce que nous pouvons saisir de façon sensible, mais même intelligible et même désiré avec notre cœur. Dans sa méditation sur les béatitudes, saint Thomas dit que nous sommes récompensés non seulement au-delà de ce que nous avons mérité, mais au-delà de ce que nous avons désiré. C'est quand même bien. Parce que Dieu est vraiment grand Seigneur. Enfin, si vous lisez un peu, c'est aussi utile de lire un peu les récits des voyants, enfin des apparitions approuvées par l'Église, hein, comme Fatima, Romain, La Salette ou des choses comme ça, Lourdes. Et là, on voit que le sentiment qu'éprouvent les voyants, et ou même Thérèse de l'Enfant Jésus dans certaines méditations qu'elle a eues, c'est le fait précisément d'être aimé personnellement et que ça dépasse ce à quoi leur cœur pouvait aspirer. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait surabondant. Et je pense qu'il faut faire un effort de foi. Parce que vous voyez, c'est... Pour parler du ciel, il faut affronter la dérision. Moi, récemment, j'ai eu affaire à mes religieux. Je leur ai présenté mon bouquin de métaphysique, quoi. Une heure et quart. Je crois qu'ils en ont pris une partie. Et qui a été édité chez Brun, là. Et ça m'a intéressé aussi de le présenter. Et au début, j'ai dit, écoutez, quand tu fais de la métaphysique, il faut affronter la dérision. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que ça? Les types pensent vraiment que vous êtes star si vous faites de la métaphysique, quoi. Parce que vraiment... Après Descartes, après Kant, l'homme ne peut pas atteindre ces choses fondamentales que la tradition appelle l'être, vous voyez. C'est quelque chose de... C'est un orgueil incroyable, c'est un espèce de dogmatisme dangereux, quoi. Et alors donc, il faut affronter cette dérision et accepter, même que dans des milieux bien pensants, on dit, ouais, c'est un truc, vraiment, j'y comprends rien, a priori. Alors qu'en fait, je crois, certainement, nous ne comprenons pas, mais tout le monde intellige quelque chose, hein, métaphysique. Hein. C'est une de mes grandes thèses que j'écrirai dans mes œuvres complètes sur papier vide, mais qui sont pas encore imprimés. Hein. Si j'ai le temps de le faire, et si je ne meurs pas d'une crise cardiaque comme notre familier. Bon. Mais j'aimerais bien avoir le temps d'écrire ça, parce que je suis persuadé que dès le début, vous voyez, certainement en métaphysique, on ne comprend pas par définition, parce qu'il n'y a pas de saisie totale et adéquate Hein, c'est la saisie totale et adéquate de l'être, c'est la vision béatifique. Bon. Mais on intellige, et tout le monde est un peu métaphysicien, un petit peu. Il faut cultiver ça. Alors, il y a des voies pour ça. Là. Par exemple, lisez Dante. Hein, je crois que c'est une voie, c'est une ouverture poétique à la métaphysique théologique. Bon, donc il y aura cette joie extraordinaire qu'on ne peut pas décrire. Et il faut y croire, vous voyez. En fait, ce qui est difficile dans le christianisme, c'est de croire à quel point Dieu a aimé l'homme, vous voyez. Quand on l'a vu une fois, elle est si belle qu'on voudrait mourir pour la revoir toujours. J'étais récemment à l'aube, et je pensais à cette phrase de Bernadette à propos de la Sainte Vierge. Et alors, donc, voilà. Donc, il y aura un bonheur indescriptible humainement, par éminence, de tous les bonheurs possibles. Et alors, dans ce bonheur, il y a un élément sur lequel je voudrais insister. Surtout à cause, disons, de... Parce qu'on va peut-être dire le mois prochain, je ferai, si mon frère est en bonne forme, on va faire un café caté à deux, un peu hors série, qui s'appellera Notre Mai 68 et le vôtre. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va dire, mais sûrement ça va être intéressant. Et en tout cas, on va bien rigoler, au moins. Mais parce qu'on ne sera pas loin des lieux de notre crime. Quoi. Mais alors, ça sera une interlude avant de parler de Dieu. Bon. Et mais pourquoi je vous raconte ça? Alors voilà, pour le mois, à cause des maîtres, enfin des grands manichtroumpfs qui nous mettent leur gros popotin puant sur nous depuis 68, pour s'exprimer comme à l'Académie française, et entre autres à Freud. Alors Freud, si vous résistez à Freud, allongez-vous là, vous avez besoin d'être psychanalysé. Alors donc, justement, il y a mon moi, et que je vais être de mon moi, etc. Bon. Alors, comme on a naturellement une tendance à être égotique, déjà depuis le péché originel, mais elle est fortement accélérée avec la méthode Coué et avec Freud. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux dans la psychologie, mais enfin, chez Freud, il y a beaucoup de trucs vraiment foireux. Et alors donc le moi, mais le moi c'est intéressant, mais justement le moi, parlons-en du moi. Le moi, on le verra, notre moi, dans Dieu, vous voyez. Il ne faut pas chercher à avoir une vision directe de notre moi dans la vie présente. C'est semble-t-il le but des mystiques naturels hindous, d'après Maritain et quelques autres spécialistes de la question, c'est qu'on s'est un peu discuté, mais si c'est ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que précisément notre moi, il est pour le comprendre, il faudrait que je voie. Il n'est pas saisissable métaphysiquement, si ce n'est indirectement par les effets qui en sortent. Il est saisissable que théologiquement comme le terme de l'acte créateur. Et au ciel, je verrai en Dieu la nature, les propriétés de toutes les choses, et en particulier moi. Je me verrai vraiment comme le terme de l'acte créateur de Dieu, et ça c'est dit explicitement par saint Paul, je connaîtrai, enfin dans le grec c'est je super connaîtrai comme je suis super connu. Donc vous voyez, on arrivera enfin à s'accepter. Donc là, les psys n'auront plus de travail. Parce que on s'acceptera tel qu'on est, on dira, tiens, c'est quand même pas mal ça. On sera quand même assez content. Parce que c'est quand même le truc dur à porter, parce que les autres, moins ils s'écartent de temps en temps. Mais nous, on est toujours là, quoi. Avec la tendance, si vous voulez, la blessure, si vous voulez, qui va vers le néant, quoi. Qui maintient, et c'est une phrase de Monternan, là. C'est l'orgueil, enfin une phrase incroyable, en disant, tout à fait stoïco-aristocrato-délirante, vous voyez que c'est son orgueil qui maintient son moi au-dessus des mers du néant. Mais c'est vrai, parce qu'il faut le maintenir, enfin là ça marche pas, mais il faut le maintenir, parce que la désespoir nous fait glisser. Celui qui dit qu'il est complètement exempt de toute tentation de désespoir, ben, je ne veux pas lui faire peur, mais ça m'étonnerait que ce soit tout à fait le cas. Parce qu'il y a cette... Bon, alors le moi, voilà, il sera parfaitement vu, et on verra qu'on a été le... On recevra notre nom d'éternité. C'est un passage de l'Apocalypse que j'aime beaucoup, dans le chapitre 2, c'est la lettre à une des sept églises, je crois que c'est celle de Pergame, dans cette première grande lettre aux églises de Saint Jean. Il y a un passage qui m'a toujours, pas toujours, mais depuis une trentaine d'années qui me fascine, il y a un caillou blanc, enfin un caillou étincelant. Et celui qui est vainqueur, c'est-à-dire celui bienheureux, Dieu lui donne un caillou étincelant sur lequel est écrit un nom que seul lui peut lire, etc. C'est le nom d'éternité. C'est-à-dire, le nom, vous savez, marque ce qu'est la réalité. Alors notre nom, c'est notre baptême, c'est ce qu'on a reçu, notre nom de confirmation, notre religion, etc. Puis il se sculpte, si vous voulez, dans l'aventure du temps, quoi. Mais là, il sera totalement, il sera à incandescence, si vous voulez. Et il sera donc, il sera dans sa beauté profonde, spirituelle et corporelle, et seront grâce à la purification du purgatoire. Alors les élus, donc, verront cela, se verront eux-mêmes dans l'essence de Dieu, dans la transutilité où il y a cette mer de cristal dans l'Apocalypse, une mer de cristal mais qui est brillante comme de l'or, c'est très mystérieux, c'est un peu l'essence divine dans laquelle les élus verront la réalité de toutes les choses, tout ce qui est important, ils connaîtront toute la réalité et ils connaîtront même l'histoire en tant qu'elle les concerne. C'est seulement les élus connaîtront ce qui peut concerner l'histoire du salut de leurs proches, de l'ordre qu'ils ont fondé, les conséquences mauvaises ou bonnes plutôt des choses qu'ils ont faites, etc. Vous voyez, donc il y a quand même un certain regard sur l'histoire à partir de l'Église triomphante dans l'essence de Dieu. Mais les choses sont connues dans ce qu'on appelle pour les anges la vision matutinale, c'est-à-dire vraiment dans l'essence de Dieu. Donc on les verra vraiment, la résolution sera parfaite. Si vous voulez, pour les gens qui aiment la photo, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de... Voilà, ce sera très intéressant. Mais ça ne sera pas, si vous voulez, on verra tout Dieu, bien sûr, on verra le mystère de Dieu, tous les élus verront le mystère de Dieu, ils ne le verront pas totalement, parce que seul Dieu se comprend totalement, mais ils le verront avec plus ou moins d'acuité, si vous voulez, dans ces abîmes de lumière, avec plus ou moins de profondeur et d'acuité, en fonction de leur degré de charité, qui va mesurer la lumière de gloire. Oui. L'instant de degré de charité que nous avons à l'instant de la mort mesure l'intensité de la lumière de gloire que nous recevons et fait qu'on verra Dieu et on l'aimera donc plus ou moins en fonction de cette capacité de désir que nous avons créée. Donc tout le monde sera saturé, il n'y aura pas de jalousie, mais les capacités sont différentes. Oui. Et là, ce sera bien parce qu'on arrêtera les revendications égalitaires. Ben, ça sera égal parce que tout le monde sera plein, mais certainement les grands saints... On le voit quand on verra la rose des élus, ont quelque chose de... C'est normal, parce que vous voyez aussi la vie qu'ils ont menée, et puis aussi, surtout, enfin, le saint est le fruit de la grâce de Dieu. Donc vous voyez, si Dieu nous appelle à une très haute sainteté, il nous appelle aussi à une croix très crucifiante. Donc, il faut être content de ce qu'on a, quoi. Hein. Voilà, la croix qu'on a, c'est la bonne. Parce qu'habituellement, c'est celle d'un copain qu'on retrouve. Ça me plaît assez, mais c'est jamais... Voilà. Et donc voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il faut beaucoup, dans cette petite méditation sur la vision béatifique, il faut bien réagir contre l'idée de statisme. Parce qu'on parle de repos éternel, on ne va pas se croiser les pouces, si vous voulez. Repos, c'est par rapport à la succession, aux générations, l'ensemble des générations du monde, dit Saint Thomas dans le Somme contre les gentils, est ordonné à l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme est ordonnée à Dieu. Ben, quand l'âme de l'homme verra Dieu, ben, on ne sera plus engagé dans tous ces mouvements. C'est ça qui arrêtera. Mais par contre, notre acte de vision béatifique qui nous branche sur l'éternité de Dieu et notre propre participation à cela, qu'on appelle l'éviternité, notre branchement sur l'éternité, eh bien, sera quelque chose de très dynamique. Vous voyez. Ce sera plutôt un choc, si vous voulez, qu'une toile. Vous voyez. Si quelqu'un vous a manqué pendant 5 ans, hein, une épouse qui retrouve son mari qui vient de 5 ans de camp de représailles, l'instant où elle le retrouve a une force, une densité qui était à nul autre pareil. Eh bien, la vision béatifique, c'est ça, mais je ne dis pas sans arrêt, mais c'est ça, quoi. Et en plus, Saint Thomas, je viens de le voir en préparant un peu ma documentation, Saint Thomas dit, on sera toujours dans l'étonnement. Alors, c'est un peu mystérieux, parce que je pense qu'on sera toujours dans l'étonnement, au sens que notre esprit, si vous voulez, verra, bon, Dieu à la profondeur que sa gloire lui prédestinera, mais en même temps, comme dans l'esprit différentes capacités, il y a une capacité de communion avec la profondeur des choses, hein, la partie la plus spirituelle que Saint Paul appelle le pneuma, et puis il y a une capacité aussi un peu de discours, etc. Et je pense que cette capacité pourra approfondir tel ou tel aspect et aller, ce qu'on voit dans le psaume, l'abîme appelle l'abîme à la voix de vos cataractes. C'est-à-dire, vous voyez que la fixation de cette capacité réflexive de l'homme sur tel aspect du mystère de Dieu renverra un autre aspect, mais tout ça sous la grande mouvance, si vous voulez, sous la grande lumière qui tombera de la vision béatifique. Et ça, c'est possible, vous voyez, parce que souvent on se dit, mais comment on peut faire deux choses à la fois? Il y a quelqu'un qui cherche à convaincre de ça, et parce que je cherche à lui dire, parce qu'elle a quelqu'un de très proche qui est, j'espère, enfin au ciel, enfin au moins qui est de l'autre côté, et je lui dis, mais bon, il te voit. Il dit, non, parce que s'il voit Dieu, il ne s'occupe pas de moi. Vu l'arbre en boule? Et 20-0 pour la question. Enfin, je ne dis pas ça, parce que je suis très respectueux vis-à-vis d'elle. Mais je dis, mais non, tu vois, parce qu'en fait, vous voyez, dans les choses chrétiennes, c'est ça qui est bien. Le petit n'est pas supprimé par le grand. Il n'y a pas la pyramide construite par 150 000 types qui crèvent. Pour la gloire de Toutankhamon, de je ne sais pas qui, de Ramsès II. Vous voyez, quand il y a quelque chose de grand, la vision là-dessus, il y a tout le reste. Et c'est ce que dit Gardini à la fin de son bouquin, sur les fins dernières, qui est écrit en 1940. Il dit ceci. Une chose vraiment intéressante, comme l'homme entre dans l'éternité. Il dit, c'est vraiment étonnant, on entend toujours répéter que le christianisme se fait de l'homme une idée étroite, qu'il méprise le corps, qu'il dévalue le monde, qu'il arrache le croyant à l'action et à l'œuvre pour le mettre spirituellement, religieusement à l'écart. Ben, les gars qui pensent jamais ouvert vraiment Saint Thomas ou les pères de l'Église. Hein. Ils ont bouquiné que quelques auteurs poussiéreux, un peu déviants, Jansénos, machinés ou quoi. On ne conçoit pas comment une telle contre-vérité a pu s'ériger en dogme. C'est ça que les gens vous disent. Oh, ben le ciel, bon, l'année prochaine, tu verras bien.
Alors, père machin, vous prépare un peu, 97 ans, prime, là, ça va. Oh, bah, vous préparez chez vous. Attendez, pour le bien ici, attends un peu.
Les gens sont pas pressés. Hein. Bah, ils font le purgatoire des gars pas pressés. J'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais il y en a un. Enfin, si je vous l'ai dit, en gros, c'est le retard de la vision béatifique, mais c'est un peu normal, quoi. Comme les Ratzinger, enfin, le pédon Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, dit quand même une des grandes raisons des fins dernières, c'est la justice, quoi. C'est vraiment une raison apologétique fond fantastique, quoi. Donc, bah, si je traîne, eh ben, je traînerai de l'autre côté aussi, quoi. Voilà. Donc, on ne conçoit pas comment ça puisse s'ériger, car nulle part ailleurs, l'homme n'apparaît sous un jour si élevé que dans le message chrétien. Vous voyez, c'est-à-dire, on va le voir quand on va continuer, mais déjà, par le fait que notre propre durée avec laquelle peut être sauvée va rentrer dans l'éternité. Nulle part l'univers n'est pris si au sérieux, nulle part le créé, ce qui a lieu dans la temporalité, n'est si résolument soulevé vers Dieu et en Dieu que par le Christ et à travers lui, sous un mode, il est vrai, auquel ne s'attache pas une onde de mythe ni de conte, etc. Donc il y a vraiment ce que nous avons fait, ça a soulevé notre propre histoire, dans ce qui est sauvable, c'est tout ce qui a été fait dans la charité peut être sauvé, parce que ça peut être assumé par le Christ, et tout ça, ça passera dans l'éternité. Si vous voulez, il n'y a pas une extériorité totale, ça sera sous l'éternité, assumé, et on pourra le revisiter d'une certaine façon, comme on revisite la vie du Christ avec le retour. Donc ça, c'est le premier volet, et encore, j'ai encore un truc à dire, c'est que ce choc nouveau, ça peut être comparé, alors là-dessus, il insiste pas mal là-dessus au début de son bouquin, le père Bott, là, ce père du diocèse de Versailles, il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un aspect, si vous voulez, ludique, un aspect de joie, de danse, un aspect de jeu. Alors, il s'appuie sur des textes, à mon avis, tout à fait provenant de l'écriture. Les mystiques parlaient de jeu des joies. L'éternité, c'est jouer le jeu des joies avec Dieu. C'est un jeu où tout le monde gagne toujours. C'est un jeu très bien. Et il y a une danse avec la sagesse aussi, dont on parle. Et la sagesse joue avec les enfants des hommes. Donc ça, je crois que c'est très important. Dans le paradis, Dante présente les âmes avant la résurrection comme des lumières, vous voyez, qui s'expriment par des chants et aussi des rondes, vous voyez, elles ont des différents cercles, et quand Dante arrive dans un de ces cercles, elles tournent autour de lui, vous voyez, avec des musiques supracélestes, etc. Et ça, je crois que c'est très proche ça nous parle vraiment de la réalité telle qu'elle sera, parce que il y aura en effet cette espèce d'innocence, on voit dans la ronde des élus, vous voyez, de Frangelico, voilà. C'est aussi une danse, c'est pas du jerk, évidemment, mais c'est quelque chose de mieux. Enfin, maintenant, ça va être complètement dépassé, ce truc-là. Maintenant, ça doit être encore plus débile. C'est bon. Alors, voilà. Donc voilà, ça c'est le premier aspect, c'est le plus important, oui. Alors maintenant on arrive à des choses plus faciles. Donc deux autres aspects, l'aspect commun. C'est la cité céleste. La phrase de Saint Jean que je vous ai dite, qu'ils vous connaissent, vous le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, oui. Alors Dieu, si vous voulez, c'est la connaissance, ce qu'on appelle la théologie, ce que les Grecs appellent la théologie, la vision de l'essence, et le Christ, c'est l'économie. C'est-à-dire Dieu a agi, Dieu pouvait faire autre chose, mais il a fait concrètement quelque chose, le péché a été permis en Adam, le Christ, Dieu a décrété l'incarnation pour le racheter, et puis il y a toute cette dynamique qui s'enclenche, et donc le ciel, c'est ça aussi. Je vous ai mis quelques citations là, des pères de l'Église, de l'Écriture et du Catéchisme, dans laquelle on cherche à souligner ça, que le ciel, c'est le Christ. Vous voyez, Saint Ignace d'Antioche, qu'on conduisait, un évêque, donc un des premiers évêques qui avait connu donc les disciples directs des apôtres. Hein. Donc c'est vraiment émouvant de penser à ça. Enfin, il a été au contact, oui, vraiment de la prédication apostolique. Il a été martyrisé à Rome, et donc les chrétiens voulaient le faire évader dans son transport. Il était lié, il était dans la custodia militaris, il était lié avec tout le temps avec un soldat, donc on voulait le faire évader. Il a dit non, surtout pas, laissez-moi aller là-bas, parce que c'est uniquement là-bas que je serai un homme. Au ciel, je serai un homme. Laissez-moi mourir eis Christon, vers le Christ, hein, laissez-moi recevoir cette pure lumière. Et donc, c'est le développement, l'idée que le ciel, c'est le Christ. Oui. Et de fait, c'est le Christ avec le Christ total, c'est-à-dire le Christ triomphant, l'Église. L'Église achevée, formé par les baptisés, avec le caractère ou sans le caractère, c'est le baptême de désir, etc. Mais c'est quand même l'Église, tous ceux qui ont adhéré explicitement ou implicitement au Christ, autour de lui, forment une société qu'on appelle, que Saint Jean nous représente dans ce livre fabuleux qui est l'Apocalypse, au chapitre 20 et 20e. Il y a deux passages importants, chapitre 4 et 5 sur la liturgie céleste, Mais les deux passages sur le grand développement sur la Jérusalem céleste, c'est chapitre 20 et 21. Et c'est vraiment un livre qu'on peut lire et relire. Moi j'ai un souvenir personnel à propos de ce livre, un peu embrumé, mais enfin je crois quand même assez juste. C'était une retraite, je crois que c'était la retraite de confirmation, donc classe de 7e à l'époque, ou retraite de profession de foi, classe de 6e. Donc vous voyez, j'avais 10 ou 11 ans. Et on m'avait offert un Nouveau Testament. Et j'avais lu pendant la retraite, ou la récollection, je ne sais pas comment ça se passait, je me vois encore dans la cour de récréation de mon école, j'étais tombé sur un bouquin qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelait l'Apocalypse. J'avais rien compris. Rien du tout. Mais ça, je trouve ça absolument fascinant. Et j'espère que j'ai gardé cette fascination, parce que c'est peut-être pour ça que j'ai fait le bouquin sur les 100 dernières, pour aller là où c'est marqué dans le chapitre 20. Quoi. Et c'est vraiment un très très beau livre, très fascinant, parce que justement, vous avez des images qui se repoussent facilement. Parce que vous avez une cité qui fait 22 000 km dans toutes les directions. Qui a forme, une cité qui a une forme cubique qui fait 22 000 km. Si vous transposez en cube. Donc c'est clair qu'il ne faut pas que c'est symbolique. Hein. Donc on est obligé de passer au symbole. Hein. C'est comme dans Isaïe, vous avez des roues, des ailes, des machins. Si vous faites le dessin, même en Lobachevski ou Riemann, ça ne marche pas. Ce que dit Denis Laropoli, c'est des images volontairement forcées pour nous obliger à les quitter. Oui. Mais chacun des éléments de l'image, les roues, les ailes pour les anges et tout, c'est parlant. Et là, dans l'Apocalypse, c'est une accumulation absolument somptueuse. Vous voyez, comme les pierres, les 12 séries de pierres qui constituent la Jérusalem céleste, les matériaux dont elle est faite, tout ça, c'est absolument évocateur, si vous voulez, d'une cité. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quand même assez beau de penser que c'est pour consoler ceux qui font un peu de politique. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, qu'on est dans l'époque des spies, enfin, au moins dans un certain courant catho, on se réfugie dans le pur spie. Ou le spi familial, qui est déjà pas mal. Mais enfin, il y a aussi le politique. Et donc, qui est un peu dégradé dans l'esprit de certains, ou un peu trop sale pour qu'on y touche. Mais n'empêche que l'idée qui vient dans la cervelle d'un juif, c'est pas. Évidemment, il est assez hellène, je suis d'accord, mais enfin, pour les Grecs, évidemment, c'est la police. Hein. C'est là où on. C'est la cité, c'est là où on peut discuter. Hein, parce qu'à Athènes, il y avait 250 000 types qui bossaient pour que 10 000 puissent discuter des lois, quoi. Enfin, je caricature un petit peu, mais. Et là-dessus, il y a une certaine de philosophie. Mais donc, la cité, enfin, c'est vrai que c'est là que la vie humaine peut. Atteindre son état élaboré, et la famille a un besoin, je dirais vraiment, moral radical de la cité. Hein. La famille ne peut pas se suffire à elle-même. Bon, et donc c'est une cité. Et ben, l'église glorifiée, c'est une cité qui descend du ciel, c'est qu'elle vient de Dieu. Bien sûr, elle est faite par des pierres vives qui sont des hommes. Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes, dit Rabelais dans, je ne sais pas, c'est le Carly ou je ne sais pas où. Mais là, c'est des bonnes pierres, c'est pas au sens de Rabelais. Quand même un peu cette idée qu'il y a quand même dans la communauté, vous voyez, quelque chose qu'on ne trouvera pas dans les individus. Vous avez un très beau passage dans l'encyclique contre le communisme, dans une des encycliques contre le communisme, écrit par Pionze, Divine Redemptoris, disant que dans le bien commun, on trouve quelque chose qu'on ne va pas trouver dans les biens individuels, et c'est pareil pour l'Église. Donc c'est une société qui descend de Dieu, d'auprès du trône de Dieu et de l'agneau, et qui est en fait organisée, je dirais corporellement, autour du corps du Christ. Si vous lisez attentivement, hein, il y a tout un petit passage du chapitre 5, chapitre 20, chapitre 21, et vous apercevez que le centre, si vous voulez, c'est quelque chose de translumineux, de diaphane, et le centre, c'est un agneau comme immolé, c'est l'humanité du Christ, que les Grecs appellent le flambeau de verre de la divinité. Parce que, évidemment, c'est le summum de la beauté corporelle, si vous voulez. Je lisais quelque part dans Chrysostome, et lorsque nous apercevons pour la première fois un corps d'une grande perfection. Là, il s'adresse à des Grecs, hein, qui sont très l'acmé des grands athlètes des Jeux Olympiques de l'époque, hein, qui combattaient, enfin qui nus. Donc c'était des gens qui devaient être vraiment une perfection physique extraordinaire et qui après décadaient, donc c'était une tristesse quand même. Parce que c'est ça la perfection humaine, c'est l'athlète dans son acmé, un des aspects de la perfection humaine. Et donc là, en fait, Chrysostome dit, ben, quand on la voit, on est comment, bon, on est saisi. Puis après, bon. Après, bon, on s'habitue. Quoi. Même dans les éblouissements les plus extraordinaires des choses sensibles, il y a une accoutumance. Il y a une certaine accoutumance. S'il n'y a pas accoutumance, c'est qu'il y a une âme dans le corps. Et à ce moment-là, l'âme transparaît, si vous voulez. Donc, on découvre de nouveaux aspects. Mais du simple point de vue corporel, c'est toujours limité. Tandis que là, il y a l'humanité du Christ, qui est le plus beau des enfants des hommes, qui est le centre de la Jérusalem céleste, et qui l'illumine de l'intérieur. Il n'y a pas de lampe, c'est-à-dire que c'est une cité qui est éclairée par Dieu. Chacun des élus ayant la lumière de gloire, on va revoir ça dans la rose des élus avec Dante, et l'agneau, c'est-à-dire le Christ, et la lumière de la cité de gloire, de la cité de la Jérusalem. Jérusalem, c'est un mot hébreu qui signifie la vision de paix. Salam, dans les langues sémites, c'est la racine qui désigne la paix. Donc la vision de paix, et donc la Jérusalem terrestre était vraiment une image de cette Jérusalem céleste qui sera une vision de paix, où tout sera ordonné, hein, tout n'est que luxe et beauté, calme, luxe et volupté, etc. Comme dit Baudelaire, mais dans un sens beaucoup plus profond, et sans satiété, c'est-à-dire sans dégoût, hein, la chair est triste, et là, c'est, j'ai lu tous les livres. Bon, mais c'est aussi Baudelaire, je crois, qui dit ça, Mallarmé, bon, alors voilà. C'est heureusement qu'il y a des gens cultivés. Et donc, vous voyez, c'est des poètes qui ont bien senti cette espèce de... Il y a une satiété, quoi. Tandis que là, il n'y en aura pas, parce que précisément, ce sera, même s'il sera corporel, sera alimenté à la source de la pensée, et surtout à la source de l'esprit, connecté avec Dieu. Donc tout sera dans l'ordre, vous voyez. Et donc il y a cette Jérusalem qui descend, et c'est Dieu avec nous, c'est-à-dire la réussite du plan de Dieu, Emmanuel, qui est encore un mot hébreu, qui signifie Dieu, Dieu avec nous. C'est-à-dire que Dieu, si vous voulez, intériorisé dans les élus, et Dieu habitant, réussissant encore mieux son couple dans l'Éden paradisiaque, où il venait pour parler avec Adam et Ève dans la brise du soir, etc., dans une intimité qui s'exerçait dans la foi, mais qui était quand même très réelle. Mais là, ce sera dans la vision. Donc il sera encore plus intérieur, vous voyez. Vous voyez, quand les gens s'aiment, me disent, mais tu es en moi, quand tu penses quelque chose, je le sens, quand tu... Vous voyez, ça sera encore plus ça, vous voyez. Mais avec Dieu, et en Dieu avec tous les autres. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a vraiment une amitié totale dans l'interconnexion des élus. Et donc, il y aura évidemment une parfaite béatitude, décrite ici négativement par le fait qu'il essuie toutes les larmes. Donc tout ce à quoi est ordonné l'ordonnance de la cité terrestre, enfin, un aspect des béquilles, si vous voulez, de la cité terrestre, enfin, la gendarmerie, l'armée, tout ce qui est destiné à protéger des perturbations sera évacué parce que, ou les médecins, eux-mêmes, etc., enfin, tout ce qui est décidé de manière enchantée, tout ça sera dans un ordre parfait. Et alors, en plus, il y a évidemment le fait que, de l'intérieur, on sera éclairé par la vision. Il y a des tableaux comme ça d'artistes flamands qui sont tout à fait impressionnants, ceux-là. Donc, où il y a la liturgie de la Jérusalem céleste. Et donc il y a des images absolument somptueuses dans l'Apocalypse pour décrire l'activité des élus. Alors moi je pense que cette activité, vous voyez, est pas simple. Évidemment c'est imagé pour décrire ce qui se passe dans leur esprit. Mais je crois assez volontiers qu'au moins après la résurrection, ça pourra très bien être corporel. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une liturgie vouée à l'adoration, à l'action de grâce et au remerciement, vous voyez, à la louange, essentiellement, jusqu'à la fin des temps. Il y a une nuance de demande, parce que l'église du ciel demande pour l'église de la terre. Il y a une très belle image dans l'Apocalypse, c'est les martyrs qui sont sous l'autel, qui crient en disant « Justice, justice, arrête, punis, arrête les persécutions. Hein » Et alors on dit « Attendez, le temps n'est pas... » Mais il y a une certaine prière, vous voyez, des saints qui sont au ciel pour l'arrêt des persécutions pour les saints qui sont sur la terre, ou pour qu'elles soient supportables, etc. Vous voyez. Donc il y a une intercession. Donc cette dimension-là existe. Thérèse de l'Enfant Jésus a dit je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Bon, ça c'est une belle dimension et c'est vrai que cette dimension existe, vous voyez, ça ne les empêche pas d'être bien heureux, mais ils intercèdent. Mais après le jugement dernier, c'est fini, ceux qui sont en enfer, il n'y a pas intercédé, ça n'attire à rien, on a essayé de dire pourquoi, donc il n'y a plus qu'à louer. Et moi je crois assez facilement que bon, bah pourquoi pas une liturgie céleste. J'ai essayé de vous donner trois éléments de cette liturgie en me fondant sur le texte de l'Apocalypse. Il y a une dimension qu'on trouve dans toutes les liturgies terrestres, qui est le chant du Sanctus, qui est dans Isaïe, le Trisagion. Hein, on trouve dans toutes les liturgies que je connais, il y a cette dimension-là. C'est la dimension trinitaire, vous voyez. L'homme, donc, il reflète la vision béatifique. L'homme chante le mystère trinitaire et sa beauté. Il y a une autre dimension dans laquelle il chante le mystère créateur. Il remercie Dieu de nous avoir créés. Donc, oui, il faut déjà commencer ce remerciement ici-bas, mais le remerciement parfait sera dans l'éternité, parce que ici-bas, nous ne connaissons pas les bienfaits cachés de Dieu. Dans liturgie byzantine, il y a un moment de l'orthodoxe, je crois, de l'office du matin, où on dit, on remercie Dieu pour les bienfaits connus et inconnus, et puis aussi une raison de la divine liturgie. Bon, et donc il y a ce remerciement pour la création, et puis après un autre chant pour l'agneau immolé, hein, qui est l'introïde de la messe du Christ roi au rite ancien, latin. Il est digne l'agneau qui a été immolé, et pendant toute l'éternité, vous voyez, dans l'éternité, à l'intérieur de l'espace de l'éternité, il y aura la croix transfigurée du Christ, avec le Christ dans ses stigmates glorieux, mais avec au centre de cette durée spéciale de l'éternité, la croix du Christ qui a dominé le plérôme du temps, comme parle saint Paul. Donc tout ça sera transporté. Mais il ne faut pas penser que Dieu fait l'histoire et qu'après il la mène dans une poubelle, quoi. Non, il va prendre tout ce qui peut être pris de l'histoire. Au centre de l'histoire, il y a la croix. Et donc cet agneau, avec cette liturgie autour de lui, et ce sera évidemment quelque chose d'absolument magnifique. Alors Dante a essayé, Dante curieusement, enfin moi j'ai mal relu son passage, non, à la fin du livre du Père Beau, B.O.T., là, vous avez la traduction, sa traduction à lui, qui est pas mal, hein, une fois un peu prime sautière, un peu gentille, un peu naïve, mais enfin ben, c'est bien, c'est quand même, c'est vraiment la substance, il a fait partie du texte dedans. Il y a d'autres traductions qui existent chez Garnier Flammarion. Et la fin du paradis, c'est absolument magnifique. Et alors, si mon souvenir est exact, il ne se préoccupe pas tellement de l'humanité du Christ. Mais il se préoccupe de montrer la Jérusalem céleste comme, si vous voulez, une rose. C'est-à-dire que vous avez, c'est une rose énorme, hein, avec comme un gigantesque cône inversé, les rangs les plus hauts sont les plus larges, et c'est les plus hauts. Et alors vous avez, chaque élu est un pétale de la rose. Et alors dans le cercle supérieur, c'est les élus les plus élevés, la Sainte Vierge est un endroit du cercle, et puis ensuite tous les saints qui sont dans leur gradation. Et donc au-dessus, vous avez la lumière de gloire. C'est un très bon théologien thomiste, hein, Dante. Et donc vraiment, si vous êtes, vous voulez pas lire Saint Thomas, lisez au moins le dialogue Sainte Catherine de Sienne et la Divine Comédie. Comme ça, vous aurez un bon bout de monnayer de façon poétique de Saint Thomas. Et donc la lumière de gloire, et alors lui, il y a un passage sur la lumière de gloire qu'on aura peut-être le temps de lire vers la fin. Mais il y a une chose assez amusante, c'est pour montrer la communion de tous les élus, angéliques et humains, il représente les anges, parce qu'au ciel il y aura vraiment une communion, chaque élu pourra échanger avec n'importe quel des autres élus, humains ou angéliques. On n'aura pas le temps de s'attarder sur le mode de ces communications, mais c'est vrai que ça fera partie de la joie du ciel, et entre autres, chacun se réjouira davantage que le bien qu'il a soit connu par les autres et possédé par les autres, que le fait qu'il est à lui en propre. Donc il n'y aura aucun égoïsme. Parce que tout le monde sera ravi d'être heureux, bien entendu, mais sera encore plus ravi que les autres soient heureux de son bonheur. Et lui-même sera heureux, etc. Enfin, calculez le nombre, enfin, calculez pas, parce que ça vous ferait tourner la tête, mais avec un logiciel puissant, ça doit être faisable, le nombre d'interconnexions de joie que ça fait, quoi. Bon, il y a peut-être des cinglés qui continueront ça au ciel. En arpentant le logos, comme disait le monsieur, au ciel, il y en aura qui seront députés à arpenter le logos, c'est-à-dire qu'ils continueront à faire des calculs. Bon, on leur souhaite bien du plaisir. Mais pourquoi pas. Et peut-être qu'ils feront de la poésie aussi, je sais pas. Mais alors là, vous voyez, donc il y a cette rose qui est ouverte. Alors cette rose a été ouverte par la Sainte Vierge. Il y a un très beau éloge de Saint Bernard qui justement s'adresse à la Sainte Vierge en lui disant que ô Vierge Mère, fille de ton Fils. Évidemment, la Vierge est fille dans la création de son Fils selon la nature humaine. Humble et sublime en règne universel, c'est la traduction du Père Beau. Terme arrêtée d'un éternel conseil. Tu as su ennoblir notre nature, si bien que son auteur a consenti à venir épouser sa créature. En ton sein, l'amour s'est réchauffé, l'amour s'est rallumé, paisible feu reçu de l'infini, où se déploie une rose éternelle. Tu es là-haut la torche flamboyante, si bien ensoleillée de charité. En bas, pour les mortels, tu es la source, la fontaine si vive d'espérance. En ton sein s'est allumé l'amour. Donc, en fait, Dante dit que, vous voyez, c'est dans le sein de la Vierge que s'est allumé l'amour qui a fait que la rose s'est ouverte. Oui. Et la rose, c'est tous les élus. Et les élus humains. Et alors, les anges sont présentés comme des abeilles. Comme des abeilles, enfin des abeilles mystiques, hein, des abeilles un peu perfectionnées. Mais qui vont depuis la lumière de gloire et qui reviennent pour butiner sur les feuilles pour faire plaisir aux humains, quoi. Pour échanger avec eux, alors là c'est symbolisé par les ailes qui battent, mais peut-être pour discuter de la vision béatifique, je sais pas. Parce que la vision béatifique est directe. Hein. Mais quand même, là elles vont, elles viennent, vous voyez. Et en plus elles n'obscurcissent pas parce qu'elles sont translucides. Enfin tout ça est très bien calculé. Ainsi formée comme une blanche rose, m'apparaissait la vénérable armée que Jésus-Christ épousa de son sang, donc la rose des élus. Mais l'autre armée, c'est les anges, qui voient et volent en chantant la gloire de celui qui l'en amour et la bonté qu'il a créée si grande, parce qu'il y a un nombre milliardesque d'anges, comme un essaim d'abeilles tour à tour, sans fleurs d'abord, enfin, va butiner dans les fleurs, et puis s'en retourne là où son long travail s'aromatise, c'est-à-dire dans la vision béatifique. Descendez dans la grande fleur qui s'orne de tant de feuilles, puis montez encore là où séjourne à jamais son amour. Oui. Et alors, au sommet donc de cette rose, eh bien, il y a la Sainte Vierge, qui lui est montrée par Dante. Oui. Et alors, c'est intéressant parce que dans le vocabulaire de Dante, très souvent, les choses sont vues dans le regard d'un autre. Et en particulier, Béatrice, alors c'est un peu mystérieux, Béatrice, C'est une double lecture, c'est celle qui la met sur terre, et puis c'est la théologie. Béatrice, ça veut dire celle qui béatifie. Alors, les deux, je crois que les deux lectures sont sans doute vraies, à différents niveaux. Et en fait, à un moment donné, il dit, je regardais en elle, et elle regardait en Dieu. Mais c'est très beau, mais c'est ce rôle des médiations pour nous conduire à la vision béatifique, mais la vision béatifique, après, elle est directe. Ça, c'est dans l'épisode sur la terre. Mais là, en tout cas, lui, Dante, qui est encore un mortel égaré dans l'éternité, c'est Bernard qui lui obtient la force de voir la Trinité. Et d'abord, d'apercevoir la Sainte Vierge, et là, au milieu, avec les ailes ouvertes, plus de 1000 anges que je vis faisaient fête, chacun d'eux différent de splendeur et de mouvement. Là, je vis à leurs yeux et à leurs chants sourire une beauté qui était une joie dans les yeux des autres saints. Mais les anges sont représentés comme ces espèces d'abeilles mystiques. Alors, on n'a pas le temps de s'attarder sur toutes les descriptions, mais c'est vraiment intéressant de voir comment il a utilisé toutes ces métaphores pour représenter la société des élus comme vraiment quelque chose où il y a un échange, où il y a une circulation, et où la communion est tout à fait réelle, et est un élément, évidemment les théologiens appellent ça un élément accidentel du bonheur, mais c'est quand même très parlant. C'est accidentel par rapport à la vision béatifique, mais c'est quand même tout à fait réel et fondamental par rapport au corps de l'homme et à tout ce qui compose l'humanité, à savoir ses rapports avec les autres hommes. Alors il faut arriver au dernier point, donc j'ai mis un troisième point, le paradis. Donc le paradis, pour reprendre le terme persan par lequel les auteurs sacrés ont désigné le lieu de la première humanité, l'Éden, paradis terrestre, donc un lieu d'équilibre avec les animaux, etc. Enfin, vous connaissez un peu le... C'est représenté de façon évidemment très imagée dans l'écriture, mais c'est une réalité. Il y avait tout le cosmos était en harmonie avec l'homme, parce que le but du cosmos corporel et de l'agent animal, c'est l'homme. Hein. Donc rien d'étonnant à ce que, nous dit Saint Thomas, puisque tout ça est ordonné à l'âme de l'homme, que Dieu fasse quelques miracles pour que l'âme de l'homme puisse trouver le chemin de la vérité. Et donc tout ce monde, si vous voulez, la providence, en fait, au sens chrétien du terme, c'est l'organisation du monde autour de l'homme, pour le salut de l'homme, par le Christ. Et donc cet ordre a été perdu par le péché, il est retrouvé à l'état un petit peu d'avant-goût par l'intimité que certains saints ont avec les animaux, enfin Saint François étant un des plus notables, mais il y en a d'autres. Vous voyez, une sorte d'intimité, de familiarité avec les animaux, ou même on peut penser aussi une certaine familiarité, vous voyez, avec la Providence, vous voyez, l'appel au secours des gens. Actuellement, au réfectoire, on lit un livre très rigolo et très intéressant qui s'appelle Un franciscain chez les SS. Alors, si le gars a vécu tout ce qu'il dit, de toute façon, moi, un franciscain, il doit quand même raconter la vérité, j'imagine, bien qu'il soit original, il dit quand même la vérité, et bien c'est fabuleux, quoi. Ce rapport de ce franciscain à la Providence, vous êtes assis, quoi. C'est vraiment très très délectable, quoi. Très 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 intéressant. Et je crois que cette espèce de familiarité dont les saints se jouaient, pour eux, c'était à la limite, c'était pas très très grave, quoi. Quand on demandait au Padre Pio comment on fait pour faire un miracle, je crois qu'ils attendaient par une plaisanterie, quoi. Parce que vous, il n'y a pas un mode d'emploi, même en vous regardant dans votre glace, je crois que vous aurez du mal à faire des miracles. Mais si vous voulez, c'est pas très grave, hein. Pour un saint, c'est pas très grave. Ce qui nous paraît, il y a un miracle, c'est bien, ça nous motive, ça nous secoue un peu, on est ému, on en a besoin. En allant à Londres, j'étais assez ému parce que j'ai un proche parent qui a retrouvé la foi là-bas à la suite d'un miracle qu'il avait demandé et qu'il a obtenu. Enfin, un miracle physique. Hein. C'est à l'époque encore de l'agnosticisme libéral assez dur à cuire. Là, il s'est complètement retourné, je peux vous dire, parce que moi j'ai appris ça par la saga familiale il y a quelques temps en couleur, et c'est vraiment assez intéressant. Donc c'est sympa les miracles, vous voyez, ça peut un peu booster quand il n'y a plus de carburant dans l'injection électronique. Mais bon, c'est pas grave, par rapport à ce qui est intéressant, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on va chercher de parler à Dieu la prochaine fois. Il y aura peut-être moins de monde, c'est moins conscient, mais enfin, la prochaine fois en janvier, quoi. Si Dieu existe, il y a un pur esprit infini, bon, mais il y a des esprits finis, il y a des démons, il y a des anges, il y a plein de trucs marrants tout autour, et tant mieux, quoi. Mais bon, c'est quand même Dieu, l'axe des choses. Hein. Bon. Alors voilà. Alors donc, il y aura une restauration. Et on l'a vu quand on a parlé de la parousie, au retour du Christ, il y aura une restauration, des cieux nouveaux, une terre nouvelle, et tout l'univers sera rétabli avec sa corporéité, avec des lois qui auront sans doute, je pense, un certain rapport avec celles qu'on découvre de plus en plus en tâtonnant. Hein. Ces jours-ci, on va peut-être faire des super découvertes en physique des particules qui vont peut-être tout foutre en l'air, mais ça m'étonnerait. Mais bon, c'est hyper passionnant. Mais bon, on n'aura pas fini que Christ reviendra, quoi. Et ça m'étonnerait que les lois soient complètement différentes. Enfin, ça sera quand même
je crois, une spiritualisation de ce que déjà on a un peu pressenti, quoi. Parce que ce qui est quand même fabuleux, c'est l'un dans le multiple, hein, dans toutes ces... C'est quand même... Si on arrive à faire ces vérifications là avec le grand machin là, qui est près de Genève, qui vient de rentrer en service, on va peut-être réussir à avoir une vue encore plus unifiée de au fond, comment la pensée de Dieu gère cette chose étrange que nous appelons la matière, l'énergie matière, etc. Bon, et tout ça sera transfiguré et existera. Pour prouver justement, pour magnifier la puissance créatrice de Dieu, et parce que le corps de l'homme est corporel. Et que dans le corps du Christ, la matière, y compris le boson de X, il existe, arrive à l'union béatifique, à l'union transformante. Et donc ça continuera. Mais ça continuera sous un mode évidemment qui ne nous est pas accessible, mais ça continuera par rapport à l'homme. Hein? Et donc l'univers tout entier avec sera mesuré, si vous voulez, par le corps du Christ et par le corps de l'homme, qui pourra justement se réjouir des aurores boréales et de toutes sortes de choses magnifiques, et parcourir, enfin, oui, ça fera partie de la béatitude accidentelle. Et alors, non seulement il y aura cet élément corporel, comme la bière, je ne sais pas si on aura besoin de bière là-bas. Enfin, pour terminer là, c'est pas inutile. Donc, oui, parce qu'on boira directement la volonté de Dieu, mais enfin, on pourra aussi... le Christ est bien nourri après sa résurrection. Et donc, il y aura tout, si vous voulez, même la partie animale et sensitive de notre vie corporelle existera, mais... C'est important de se dire ça, si on retrouve les nôtres après la résurrection, bon, quelqu'un handicapé par exemple, on le retrouvera splendide, tel qu'il est dans la pensée de Dieu. C'est important de penser ça. Vous voyez, c'est un des fondements du respect de l'Église pour tous les êtres, quel que soit leur handicap, qui a empêché l'idée de Dieu, la résistance de la matière, ben, ça sera parfaitement épanoui dans le corps ressuscité. Et on pourra donc embrasser physiquement les gens qu'on retrouvera au ciel, vous voyez. Donc ça, c'est pas non plus des choses tout à fait négligeables. Il y aura donc une dimension prédite par Isaïe, prédite par l'Apocalypse, de renouvellement du cosmos qui intégrera, si vous voulez, le bonheur total du paradis, hein, avec la résurrection des corps glorieux, et qui fera que, eh bien, ce sera vraiment un jardin. C'est déjà assez drôle, hein, c'est consolant pour les horticulteurs, hein, c'est l'image qu'on prend, hein, un jardin. Parce que souvent, on dit, mais, moi je me dis, mais qu'est-ce que font les gens une fois qu'ils sont en retraite? Habituellement, enfin souvent, ils font leur jardin, quoi, quand ils en ont un. Franchement, autrefois, les curés faisaient ça, tout ça, maintenant, ils n'ont pas le temps. Mais le jardin du curé, il y a même eu un concours des jardins du curé. Des fois, hyper bien. Hein. Mais c'est vrai, quoi, le jardin, c'est sympa, c'est là où il n'y a pas le voisin, d'abord, normalement. Et en principe, Bobonne est plutôt à l'intérieur. Donc, monsieur peut être dans le jardin. Donc, il y a beaucoup d'aspects sympas dans les jardins. Et puis, chez les jardins perses, il y a aussi, c'était des jardins qui faisaient des kilomètres carrés. Alors, c'était vraiment des trucs. Enfin, bon. Et Bott, justement, parle, parce que lui habite Versailles, donc il y a une dithyrambe sur le grand parc de Versailles. Et c'est vrai que l'homme veut inscrire ça, le végétal et l'eau, vous voyez, magnifiant, si vous voulez, l'esprit d'ordre de l'homme. Enfin, même dans le jardin à l'anglaise, parce que c'est l'humour britannique que ça magnifie, mais c'est comme sur de l'esprit humain. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant dans les jardins. Quoi. Bon. Alors donc, il y aura un jardin, voilà, et il sera encore plus merveilleux que l'Éden primitif, et là-dedans, il y aura les corps des élus. On n'avait pas eu le temps d'insister, on avait parlé de la résurrection générale, mais je crois que c'est très important, vous voyez, à la mort d'un proche, vous voyez, de penser, enfin de prier d'abord, parce que nos prières, à mon avis, ont un effet... Dieu peut les appliquer avant l'instant de la mort. Mais c'est pour ça que les prières de la liturgie, qui est magnifique, c'est vraiment... Moi, j'ai quand on a chanté le souvenirité pour notre familier, j'ai pleuré, parce que c'est magique, quoi. C'est magique, c'est pas d'autre mot. Si vous pensez à ce que vous chantez, vous pouvez plus chanter. Enfin, c'est ça pour les membres de la Scola, c'est comme ça. C'est tellement beau, parce que vraiment, je sais pas, on a trouvé la façon d'exprimer cette paix, si vous voulez, du corps ressuscité, glorieux, qui est dans la liberté totale de l'esprit, qui devient l'épiphanie de l'esprit. Alors j'ai mis quelques-unes de ses facultés. Il est lumineux, c'est-à-dire qu'il est diaphane. Il est revêtu de lumière, sa lumière reflète sa sainteté. L'histoire de grâce, cet homme est écrite sur lui. Il y a différentes auréoles, traduisant le martyr, la virginité, le doctorat, puis encore d'autres choses sans doute. Mais l'auréole, c'est comme la mandorle, c'est ce qui sort du corps glorieux. Mais c'est pas quelque chose uniquement donné, bien sûr c'est donné, mais ça sort du jeu transfiguré par la grâce. Alors s'il a été vierge, s'il a été martyr, s'il a été docteur, s'il a fait tel ou tel acte de vertu, ça s'écrit. Et donc, si vous voulez, le moi, le caillou incandescent là, du moi profond, se traduit, si vous voulez, comme dans un
comme dans un, vous savez, la lumière blanche qui se diffracte dans les couleurs de l'arc-en-ciel, au travers du prisme, bien, le corps traduit un peu ce qu'a été l'histoire de cet homme-là. Quand je vous disais la phrase de Maritain, c'est écrit dans la mémoire des anges, c'est écrit aussi sur le corps des élus, d'une certaine façon, ce qu'ils ont fait. Et donc il y aura une grande joie. Vous voyez, il est dit, la reine est assise à ta droite, revêtue de variété. C'est-à-dire, l'Église est à la droite du Christ, revêtue et chatoyante de la variété de tous les saints avec leur sainteté particulière. Bon, un corps lumineux, un corps agile, le corps, le cosmos tout entier lui est soumis. Il a la propriété du déplacement, si vous voulez, enfin de se rendre présent, d'être présent, c'est le terme plus exact des apparitions. Être vu, être présent, être rendu présent là où il veut. Impassible, c'est en pleine beauté, en pleine santé. Donc c'est pas rien non plus. Profitez-en tant que vous êtes bien en forme. Parce qu'à partir de 50 ans, si vous avez mal nulle part quand vous vous réveillez, c'est que vous êtes mort. C'est une femme de 50 ans qui me disait ça. C'est pas tout à fait vrai quand même. Mais quand même, quand on a pas mal qui va, ah, c'est sympa, tiens, aujourd'hui j'ai pas mal à la tête. Ça, c'est génial. En général, un peu avant le café caté, c'est un peu dégagé, donc ça peut condenser. Mais bon, c'est vrai qu'on est quand même moins performant. Comme disait quelqu'un, une vieille grand-mère de 93 ans, mamie, vous avez plus 75 ans, quoi. Souvenez-vous, quoi. Vous courez moins vite, quoi. C'est clair. Mais ça, on rigole tout ça, mais on rigole pas quand on est malade. Bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas des. Autrefois, il y avait les religieuses qui vous conseillaient un peu. Maintenant, il y a des infirmières qui sont très dévouées, c'est vrai. Mais... on va essayer d'être religieuse en plus, c'est encore mieux. Mais voilà, donc il y a la santé, parce que c'est. Et le corps sera dans une parfaite beauté, c'est un peu intéressant, et il sera subtil, vous voyez, c'est-à-dire qu'il sera parfaitement soumis à l'âme, et il communiera ses propriétés. C'est-à-dire que si vous voulez, le corps sera heureux, et il jouira, je crois que c'est important de le dire, nous aimons le plaisir, nous aussi, messieurs les païens, disait Chrysostome au décadent de Constantinople, mais nous aimons le plaisir métacosmos, le plaisir dans la beauté, le plaisir dans l'ordre, avec l'ordre. Plus que vous, disait-il. Non, mais seulement, évidemment, il y a une force pour. Je garderai mon âme à vous dans le silence et dans la force pour précisément arriver au maximum de vérité, de beauté et conséquemment de jouissance. La jouissance est toujours un accompagnement. Le plaisir, c'est un accompagnement d'un acte fondateur, fondamental. Voilà. Et donc, vous voyez, dans ce bonheur ultime avec ces corps des élus, je crois qu'on peut, pour terminer, récapituler tous les. Ça a été un peu plus long, mais. Oui. Tous les bonheurs que l'homme désire ici-bas. C'est ce que fait saint Thomas dans la Somme contre les gentils. Il dit, voilà, tout ce que j'ai pu désirer ici-bas. Je le retrouverai là-bas. Ça, c'est très important, je crois, de le dire, parce que ça, je crois que ça peut nous aider. Évidemment, c'est un tremplin pour la contemplation du point numéro 1, d'accord? Mais c'est quand même pas inutile du tout. Il y a une grande question théologique des gamins. Maman, est-ce que j'aurai mon nounours au ciel? Eh bien, il faut au moins un doctorat d'État pour répondre. Alors, après longue réflexion, je crois que la réponse est plus près de oui que de non. Parce qu'il aura, de façon éminente, la nounourséité. Bon. Voilà, je ferme la parenthèse. Ça doit être à peu près juste, quand même. Bon, donc, il y aura l'équivalent. Mais donc, il y aura tout ça. C'est-à-dire que d'abord, il y aura la connaissance de toute vérité. Vous voyez, je suis frappé d'un. En général, quand je vais à un café caté, je pique le dernier numéro de la recherche pour voir un peu les derniers trucs. Plus ça passe, moi je saisis vraiment plus que les grandes lignes là maintenant. Enfin, mais ça m'enthousiasme toujours autant. Mais qu'il y a des cinglés, quoi. Ils mettent 20 ans à mettre au point un appareil pour savoir si le boson de X existe. Ouais, c'est quand même fabuleux. Donc ça, il y a quand même. Ils sont pas totalement cinglés, ils ont réussi à faire payer ça des milliards d'euros, quoi. Donc il y a des mecs qui payent. Donc c'est qu'il y a quand même une motivation dans l'humanité de trouver la vérité quand même, non? Malgré le fait que les gens sont plutôt sur Internet qu'à réfléchir dans leur tête. Ça console quand même un peu, non? Bon. Connaissance de toute vérité. Perfection de la vertu. C'est vrai que quand on est dans la vertu, on est bien. Hein? C'est vrai qu'une famille chrétienne, une communauté religieuse, une paroisse, on exerce la vertu, ça s'améliore. Il y a un espace, si vous voulez, de convivialité surnaturelle qui se crée et qui est bon. Ben ça, on l'aura parfaitement. Parce qu'ici-bas, la vertu est toujours blessée. Plaisir, donc richesse, une extension, pardon, sublimité de l'honneur, puisque ça aussi on désire, savoir être. L'honneur, c'est le regard juste des autres sur nous. Et habituellement, on ne l'a pas. On ne l'a pas totalement. Donc là, on l'aura et totalement. Extension de la réputation, parce que tous les élus connaîtront absolument tous les mérites de tous les autres. Richesse universelle, puisqu'on possédera, tout. Tout. Absolument tout, avec toutes les symphonies de Mozart et tout ça, pas comme si on les avait faites. On verra que c'est lui qui les a faites. Mais... enfin, on sera dedans, tout ce qu'on n'aura pas eu le temps de parcourir,
Sans on pourra le parcourir, une richesse universelle. Parfaite amitié de tous et un plaisir incomparable. Voilà, j'ai mis quelques comparatifs employés par saint Thomas dans différents lieux, parce que évidemment les gens, vous voyez, c'est les compétiteurs du paradis chrétien sont en général soit, je crois, j'allais dire pervers métaphysiquement, mais il faut être miséricordieux. Mais dans les perspectives extrêmes orientales, c'est pas vraiment, c'est pas un salut de la personne. Et dans la perspective islamique, c'est pas une divinisation de l'homme. Non, c'est quand même des plaisirs un peu inférieurs. Et là, je crois qu'il faut bien dire que le plaisir éprouvé par les élus dans leur esprit et dans leur corps est plus grand, plus intime, plus continu, plus pur d'inquiétude, parce que dans tout plaisir ici-bas, il y a l'inquiétude et la société, que le plaisir sensible le plus fort. Donc évidemment, il y a une maximisation, tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai terminé en mettant une citation de Nicolas Cabasilas, un théologien laïque byzantin, juste avant la chute, juste avant que les Turcs arrivent. Donc c'est peut-être mon truc qui est peut-être prophétique, enfin, en toute proportion gardée. Alors, c'est une phrase qu'aime beaucoup Ratzinger, il la cite à différents endroits. À savoir, tout ce que je viens de vous dire, on est en train de le tisser maintenant. Ne le concevez pas comme extérieur, on le fait. Et je pense que ce café caté aussi. Merci de votre attention. Je vous rappelle que je serai à votre disposition si certains veulent que je leur dédicace le livre. Et maintenant, on attend pour quelques questions. Mais pas beaucoup. Si. Oui. Fort.
Vous dites des mots magnifiques, mais comment se fait-il que ça a finalement aussi peu d'impact pour changer nos vies, cette espérance?
C'est de votre faute. Non, c'est la mienne aussi. Non, je crois que ça a pas d'impact parce que je vais vous dire. Je vais vous faire une sortie peut-être un peu sur le prochain café caté. Mais je crois qu'il faut. Moi, je vais peut-être choquer les plus. Enfin, certains, mais c'est pas grave. Il y avait quand même des choses un peu à dépoussiérer il y a 40 ou 50 ans dans les mains. Et je pense qu'il y avait quand même à essayer de remonnayer ces grandes vérités, si vous voulez, de façon un peu plus vivante. Or, c'est vrai que la prédication sur les fins dernières était un peu en panne, ou un peu fossilisée, ou alors on insistait surtout, si vous voulez, sur l'aspect, bon. Des choses les plus simples, si vous voulez, damnation, vision béatifique, point à la ligne. Donc, et bien la trouille de l'enfer, ce qu'il faut voir là, le désir aller au ciel comme récompense, si vous voulez. Et c'est vrai, c'est une récompense, c'est sûr. Mais je crois qu'il faut assister pour le présenter comme venant de nous. Et là, vous voyez, quand même, on a de la chance avec le bouquin de Gardini, avec celui de Pott, avec le mien, et quelques autres, avec l'encyclique du pape, avec la catéchisme de l'Église catholique. Des éléments sont là pour un. J'allais pas dire aggiornamento, parce que c'est un mot un peu discutable, qui veut dire un nouvel éclairage, hein, ça veut dire ça en italien. Mais c'est vrai que, bon, Jean 23 a eu le tort, à mon avis, de revenir à Concile, normalement ça marchait pas trop. Mais en fait, c'est vrai qu'il y avait des choses un peu à remettre un peu au contact, et en particulier, je crois, la dimension commune de la béatitude, qui a été soulignée par Lubac, mais bien avant lui, par beaucoup de gens, le pape en parle dans son encyclique, le fait que c'est corporel, alors ça c'est très thomiste, si vous voulez, et puis le fait que. Si vous voulez, ça se commence dès maintenant, quoi. Qu'il n'y a pas entre la grâce et la gloire, on est dans le même monde. C'est pas le même mode, mais on est dans le même monde. Parce qu'entre la nature et la grâce, alors là, il y a une solution de continuité. Donc c'est vrai qu'on a perdu ça un peu de vue, et il y a une exténuation. Alors, donc ça, c'est l'aspect, si vous voulez. Je crois que maintenant, on est à même de faire un peu cette aération, si vous voulez, enfin, pastorale un peu plus actualisée. Et alors aussi, du côté de la critique, c'est que la crise dans laquelle est l'Occident. Et l'Église, qui en est une partie prenante depuis une grosse quarantaine d'années, si vous voulez, a évacué les dimensions métaphysiques dans la religion. C'est-à-dire qu'on est arrivé quand même à quelque chose de très moralisant, on en parlera peut-être. Et donc, toutes ces choses-là, c'est vrai que dans les enterrements, moi j'ai prêché là pour notre familier, j'ai parlé du purgatoire. Hein, et je crois qu'il fallait que j'en parle. J'ai dit le purgatoire au ciel, bon. Celle que je connaissais, je dirais qu'elle est très bien disposée. Mais dans les enterrements où il faut aussi parler de faire allusion à la possibilité, j'ai dit, il aurait aimé que vous réfléchissiez, si vous mourrez d'une crise cardiaque comme lui, où irez-vous? Relisez la liturgie que vous venez de lire. Alors ça, c'est rare qu'on le dise. Or, dans un enterrement, vous avez 1000 personnes qui viennent,
Quelquefois, ils n'ont pas la foi, mais justement, d'abord, c'est des gens qui reviennent. Là, il y avait le chef des pompes funèbres, il m'a dit trois fois au bord des larmes, ah merci, merci, merci. Il a assisté à toute la cérémonie. Le gars, parce qu'il dit, ah moi j'avais ça autrefois, j'aimais bien ça. Alors les gens retrouvent un peu, dans l'étudie qu'on fait nous, retrouvent ce qu'ils ont connu. Et puis c'est le moment de te dire un langage de vérité, avec gentillesse, avec pédagogie, et leur dire, écoutez, vous aussi, vous allez être comme nous bientôt dans un cercueil. Quoi. Donc réfléchissez. Mais on a peur, alors on fait des témoignages, des machins. Quelquefois je vois mal la dimension, enfin moi j'y assiste notamment malade et grâce à Dieu, j'y assiste pas moi, mais enfin sauf pour très rarement, mais professionnellement je suis pris ailleurs. Quoi. Mais dans ce genre de truc. Mais c'est des témoignages, des machins, des musiques, des trucs. C'est quand même un aspect un peu secondaire, vous voyez. Je crois que si on veut rendre service aux morts et aux gens, il faut leur dire, écoutez, c'est très intéressant ce qui se passe là. Il est passé, vous passerez, vous pouvez prier pour lui, etc. Qu'adviendra-t-il de votre âme pour l'éternité? Et donc il y a une dimension, mais comme on parle plus de la vie éternelle, qu'on parle surtout de la solidarité sociale, de ceci, donc on a perdu de vue un petit peu ces choses-là. Donc il faut les retrouver. On commence à les retrouver, regardez ça. Je ne me suis pas concerté avec lui, hein. D'ailleurs il ne me cite pas. Mais donc je suis vexé pour définitivement pendant trois quarts d'heure. Mais voyez, ça revient quoi. Ça revient. Ça a été un peu la faute des curés aussi. La sécularisation. Oui.
J'ai une question. Que toujours les gens qui se révoltent un peu contre.
Les gens qui se révoltent.
Ça dit que un moment que nos corps ressuscitent en tant que corps lumineux.
Oui.
Et que la force. En fait, que
pas pour ceux d'entre nous qui seront sauvés, hein,
oui,
pas pour les damnés.
Oui.
Parce que je vous ai pas décrit le corps des damnés parce que je crois que vous ayez de cauchemar.
Que, en fait, le handicap sur Terre.
Oui.
C'était un obstacle à la pensée de Dieu dans la matière.
Oui, oui. Alors on peut voir ça comme ça.
Mais en fait.
Et au ciel, les handicapés sont plus handicapés.
Comment il peut exister un obstacle à la pensée de Dieu?
Ah, bah ça, vous avez demandé aux gens qui ont fait l'Institut de philosophie comparée. Leur philo est plus proche que moi, ils vous expliqueront. Vous êtes en première année là? Bah demandez à vos anciens. Ouais, ça peut se comprendre, oui, parce que le rapport, enfin, ici-bas, dans les choses, toutes les choses que nous avons en face de nous, vous avez un élément un peu mystérieux qui est son principe d'unité, sa tension interne, et ça qu'on appelle la forme, et puis un élément un peu indéterminé dans lequel se réalise précisément cette unité. Mais cet élément indéterminé, du fait de ses sources, du fait de tas de choses, est un peu chaotique. Quoi. Et donc il y a des ratés, quoi. Il y a des moutons à cinq pattes. La plupart des moutons ont quatre pattes. Il y a des moutons à cinq pattes. C'est un raté dans la matière, sur le plan, si vous voulez. Mais sur le plan général prévu. Dans l'intention de la nature, intention naturée, qui a prévu de faire des moutons à quatre pattes, et puis il y a un cas où il y a un mauvais décodage pas dans l'ADN, l'ARN, et ça fait un mouton à cinq pattes. Mais c'est du côté, si vous voulez, plutôt de ce qui est indéterminé. Parce que le but de la nature, c'est de faire des moutons qui ont quatre pattes. Mais Dieu ne rate pas pour les hommes, parce que pour l'homme, c'est toujours réussi en quelque sorte. Parce que ce qui peut être raté, c'est le rapport de l'âme au corps, si vous voulez, mais l'âme, elle, est toujours dans un rapport direct avec Dieu. Je vois des gens qui s'occupent des handicapés, des trisomiques par exemple, savent qu'ils ont un rapport avec l'Eucharistie qui est particulier. Donc, non, mais c'est important de dire ça aussi. À ce moment-là, c'est parce que c'est vrai qu'on a une certaine répugnance, c'est normal, vu qu'on est attiré par la beauté physique, on a une certaine répugnance physique à s'occuper des gens qui ont des déficiences.
Donc, souvent, la question des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est comment Dieu a pu permettre le handicap.
Les gens qui ne croient pas en Dieu, oui, c'est d'accord, qui viennent au prochain café en janvier. Non, mais comment dire, c'est vrai, c'est le drame, c'est qu'à la limite, nous, ce qui est affreux est rentabilisable, si vous voulez, quand on a la foi. Là, on peut rentabiliser, si vous voulez, l'incompréhension, la souffrance, etc. Mais celui qui est le malheur, si vous voulez, pas avoir la foi, c'est affreux. Hein. Parce que le malheur, c'est le cul-de-sac absolu, c'est vraiment le début de la damnation. Ça n'a pas de sens. C'est atroce, quoi. Et ça, c'est dans quoi le diable veut nous enfermer. Ça n'a pas de sens. Mais justement, il faut leur dire, réfléchis, est-ce que tu crois que c'est cool? Enfin, d'abord, c'est pas cool, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça peut avoir un sens? Est-ce que ça peut correspondre à la réalité que dans ce qui est suprême dans l'univers, genre dans l'homme, les choses n'aient pas de sens? Mais c'est vrai, comment un peu c'est adoration ou désespoir, quoi. Le bouquin du Père Molinier. Bien, c'est Camus ou Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, quoi. Est-ce que, dans ce cas le plus important dans le monde, c'est l'homme? Alors combien d'injustices, combien d'oppressions, combien de, de dégueulasserie immonde et épouvantable. Alors, ça serait la foirade, quoi.
Ah, ben d'accord.
Alors, à ce moment-là, pourquoi restes-tu ici? Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ce que disait le Dantec, heureusement qu'il y a peu d'athées totalement logiques. Parce que l'athée totalement logique n'admet pas qu'il y ait une personnalité, une responsabilité personnelle. Et donc, la seule issue pour lui, c'est le suicide. Donc, autant mieux qu'il ne soit pas totalement logique. Alors, je crois qu'il faut utiliser. Enfin, c'est très délicat parce qu'il ne faut pas non plus faire trop des prêchis-prêchats pour les gens qui sont dans la souffrance, quoi. Il faut voir ce qu'on peut faire passer d'affection, d'amitié, de chemin, de prière, pour le conduire à un moment où quelque chose en lui, profond, c'est pas nous, c'est pas s'ouvrir, mais. Et il va se mettre à genoux dans son cœur, comme dit Tim Guéna. Dieu va le mettre à genoux dans son cœur. Et il comprendra que, au-delà de l'absurde, que d'ailleurs même l'existence de l'absurde suppose le sens. Parce qu'il ne percevrait même pas la chose comme absurde s'il n'y avait pas une beauté derrière. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet, c'est le sujet de la nature, c'est la permission du monde. D'autres questions? N'hésitez pas. Oui?
Une personne qui se suicide peut-elle
vivre par un temps? Alors là, oui, on parle, il a réussi à connecter quand même avec le sujet. Alors en fait, il n'y a qu'un seul problème, c'est le problème du mal. Eh bien écoutez, oui, je ne fais pas l'apologie du suicide, mais alors il faut faire très attention. Hein. Parce qu'il y a l'aspect, si vous voulez, spéculatif et il y a l'aspect pastoral. Je me souviens d'un prêtre qui était justement au diocèse de Verchoraille. Il avait voulu aller dans un coin paumé. Enfin, il y en a peut-être qui en sont là. Je vais les vexer. Ils sont très bien, les gens. Mais et il avait été pour être curé de campagne. Il avait enterré un suicidé. Il avait demandé la permission à son épouse et il avait engueulé tous les paysans qu'il avait en face de lui. Et personne ne s'est révolté. Il a dit, je vous interdis. Il a dit, l'église était pleine. Je vous interdis de vous suicider. C'est pas une porte de sortie, il aura fait tout un truc contre le suicide, avec l'accord de l'épouse du suicidé. Ça, chapeau le gars. Je vous dirai pas son nom, mais je vois encore qui c'est. Ben bravo, parce qu'il faut être très prudent dans la pastorale. Je trouve de lamentable aujourd'hui, c'est qu'on banalise, si vous voulez, les choses. Et donc, bah ben oui, ben alors du coup, il dit, ben oui, si c'est comme ça, ben moi quand j'ai un problème, je me jette par la fenêtre et voilà, et puis je vais au ciel aussi, quoi. Ça marche pas comme ça. Ce qu'on comprend mieux maintenant, enfin, on insiste peut-être plus là-dessus, c'est que très souvent, je sais pas dans quel cas, si vous voulez, pour se supprimer soi-même, si vous voulez, il y a un certain égarement, quoi. Il y a un désespoir, si vous voulez, qui finit par faire une espèce de ligature de l'espérance, le démon, et qui fait que, ben, on a plus, si vous voulez, une pleine disposition de l'esprit, quoi. Ce qui fait qu'au moment où il y a l'acte fatal, on peut estimer et souhaiter, si vous voulez, que ce ne soit pas un acte pleinement délibéré, et pleinement responsable. Et donc, on peut, et puis également, ce que disait le curé d'Ars, c'est que, entre l'acte et la mort, il y a un certain temps. Entre le pont et l'eau, la femme qui était venue lui parler de son mari suicidé lui a dit qu'il a eu une grâce de conversion. Donc ça, il faut le dire. Et donc la pastorale du suicide, il faut à la fois montrer l'horreur de l'acte, parce que c'est un péché encore presque plus grave que l'homicide. Oui, c'est terrible, se tuer soi-même. C'est un côté terrible. Et en même temps, souligner toutes les circonstances atténuantes. Alors moi, je trouve que c'est peut-être même un progrès qu'autrefois, c'était interdit les messes pour les suicider. Alors peut-être que là, bon... Mais là, on a complètement accédé, parce qu'il y a des cas où quelqu'un me citait un cas, sûrement une dame de Versailles. Elle me disait, bon, il y a un enterrement d'un suicidé, l'évêque célèbre, 12 prêtres qu'on célèbre, et l'évêque explique que ce garçon suicidé, qui était grand clerc, il a servi l'autel et le Christ, et maintenant c'est le Christ qui le sert au ciel. Devant tout le monde, quoi. Alors les autres grands clercs, le jour où ils ont un peu de spleen, ben, qu'elle tire une balle dans la tête, et l'évêque d'archevêque d'après, il ira dire, il a rejoint son copain pour être servi par le Christ. Non mais écoutez, la connerie, il y a des limites, quoi, quand même. Excusez-moi, je crois que c'est le rossini dominicain qui disparaît des gros mots de temps en temps, personne ne le dira. Quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est bien peut-être qu'il y ait une messe, mais il faut aussi, vous voyez, mettre des bémols. Enfin, vous avez tous des cas dans vos familles, c'est peut-être dramatique.
Il y a des saints qui se sont.
Des saints qui sont suicidés, par exemple.
Je ne rappelle pas le nom exact, mais il y a une jeune fille qui s'est jetée.
Oui, non, ça, alors là, madame, ça, on en parlera en privé parce que c'est un cas que les moralistes posent. C'est un cas tout à fait limite, si vous voulez, que saint Augustin envisage dans la cité de Dieu au moment où Rome a été envahie par les barbares. Certaines chrétiennes se sont donné la mort pour éviter les violations. Et puis c'est arrivé aussi en Égypte encore récemment. Voilà. Mais alors là, bon, c'est un cas limite. Hein. Je préfère pas en parler. Monsieur Cafaraz, il y a des cas de morale dans lesquels c'est très difficile de faire le discours public. Parce qu'en plus, il y a les dons du Saint-Esprit, il y a un certain nombre de choses. le suicide délibéré est de tous les cas un péché mortel. Donc ça, s'ils sont sauvés, c'est que c'est vrai. Qu'ils l'ont fait délibérément, c'est pas un suicide. Donc on en parlera, ou se jeter d'en haut, des choses comme ça. On en parlera peut-être à part, mais je crois que c'est trop difficile de rentrer dans le... dans le... dans le cas particulier. En tout cas, elles avaient une grâce. Saint-Augustin dit, parce que Saint-Augustin semble hésiter, il condamne, il dit en tout cas, si elles ont bien fait, elles ont eu des grâces particulières, une illumination du Saint-Esprit pour... on ne peut pas en présumer facilement. Thierry, oui,
une question au début de votre propos, vous avez parlé de l'éternité, en précisant que ce n'était pas une accumulation de...
Ce n'est pas une durée indéfinie.
D'où vient la formule dans les siècles des siècles?
À la formule dans les siècles des siècles, c'est une formule... comment dire? C'est une formule qu'il faut prendre dans la voie d'éminence, si vous voulez. C'est quand je parle de Dieu, ben je dis que Dieu est l'être, je dis que Dieu est intelligent, je dis que Dieu est puissant, etc. Mais je dis tout ça selon un mode qui lui est propre, si vous voulez. Alors là, évidemment, c'est un peu plus délicat, donc j'ai les siècles des siècles, c'est pour faire un tremplin pour notre esprit, vous voyez. Parce que quand même, c'est vrai qu'une durée courte évoque moins l'éternité qu'une durée longue. Donc, si vous voulez, on explique ça, mais il faut transposer le siècle, si vous voulez, dans le sens grec du mot « aion », c'est-à-dire... la durée, enfin l'espace où se déroule un acte, quoi. Et donc quand on essaie de se mettre sur la voie en disant rien ici-bas, aucune jouissance si longue soit-elle ne peut donner une idée de la jouissance de cet acte qui, en fait, il y a une définition de Boèce pour l'éternité, il dit c'est d'une vie interminable, total simul perfecta per possessio, tout entière en un seul instant, une possession parfaite de la vie interminable. C'était une vie qui n'est pas limitée, donc qui n'a pas de limite dans sa qualité, si vous voulez, et dont la perfection est tout entière en un seul acte. Quoi. Mais on est obligé de dire qu'elle n'a pas... Parce que si on évoque un temps limité, bon, ben, parce que Saint Augustin a beaucoup insisté sur le fait que les saints au ciel savent que leur vie ne leur sera jamais arrachée, la vie éternelle. Si nous savions que notre vie éternelle aura une fin... ce serait une nuance de tristesse. Oui. Donc il faut écarter cette notion de fin. Mais c'est uniquement pour ça qu'on parle des siècles. C'est un anthropomorphisme sacré.
L'apport de Lubac.
L'apport de Lubac.
Dans la question des béatitudes, de la béatitude.
Alors l'apport de Lubac, dans ça, vous direz dans Spe Salvi, c'est le pape, voyez à quel œuvre il renvoie. Donc il a insisté, Lubac, mais il n'est pas le seul, hein. C'est toujours Lubac qu'on écrit.
Oui,
voilà, il n'est pas le seul, il a insisté sur le fait que la conception traditionnelle, patristique et médiévale de la béatitude insiste beaucoup plus sur l'aspect cité céleste, corps mystique, etc. Et après, c'est vrai qu'en réaction contre Luther, on a plus insisté sur « je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Voilà. Ça fait partie des choses vraies que Lubac a dit. Il n'y a pas d'amitié singulière au ciel? Mais je ne peux pas vous dire ça. Ah, ben attendez, il y a des gens qui ont écrit un bouquin. Moi, je ne suis pas marié, donc je n'ai pas lu, mais ça m'intéressait si vous me l'offrez. Ça s'appelle Compagnon d'éternité. Et ça concerne le mariage. Alors, c'est très particulier pour le mariage, parce qu'il n'y a pas de caractère. Bon, pour la confirmation, le sacerdoce, il y a un caractère, donc ça dure dans l'éternité. Dans le mariage, il n'y a pas de caractère, mais il y a le fait, si vous voulez, qu'il y a une amitié conjugale, qui est pour les époux chrétiens dans la charité, et qui va donc sculpter, si vous voulez, le profil éternel de chacun, en relation avec l'autre. Donc, cette orientation mutuelle de la charité est éternisée dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on peut parler dans ce sens-là de compagnon l'éternité, de même que les très fortes amitiés. Mais pour l'état conjugal, ça paraît un bon exemple à donner. Et donc, c'est vrai qu'au ciel, si vous voulez, restera quand même le fait que... tout ce qui a été réalisé ici-bas dans le bien est assumé. Il n'est pas le caractère plus privilégié d'une relation pourra être maintenu dans le ciel, hein, sans préjudice des autres. Mais ce n'est pas une amitié singulière, parce qu'habituellement, ce qu'on appelle amitié singulière, c'est des inimitiés singulières. Vous voyez. Quand on dit dans une communauté, attention à ne pas avoir une amitié singulière avec un tel, ça veut dire attention à ne pas casser les pieds à tous les autres. Quoi. Ben dans les familles, c'est pareil, hein. Ou dans les chouchous de la maîtresse, qui sont persécutés par les gros costauds. Sauf si lui-même est costaud, mais effectivement, c'est lui qui est un peu plus jeune et qui est plus mignon. Là. Alors, donc, vous voyez, l'amitié déclenche une inimitié, quoi.
Enfin, surtout chez les femmes, enfin chez les hommes aussi. D'une autre façon. Et donc, au ciel, ce sera pas comme ça. L'amitié sera très bien. Moi, je pense qu'on les retrouvera, vous voyez, tous ceux qu'on a spécialement aimés, quoi. Toute votre petite litanie de saints particuliers, bah, ils vous attendront. C'est l'impression qu'a eu Thérèse de l'enfant. Ils nous attendront à la porte du paradis, quoi. Enfin, il n'y a pas de porte du paradis, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils seront là. Ça sera comme un côté familial dans le ciel. Oui. Oui, la chair c'est un hébraïque pour dire tout l'homme, y compris le corps. Alors évidemment la chair c'est un mot ambigu parce que chez saint Paul elle signifie quelque chose, elle signifie l'homme marqué par le péché originel. Mais il y a d'autres textes où la chair signifie simplement l'homme dans sa corporalité. Donc la résurrection de la chair c'est l'homme tout entier, avec son corps. Ah oui, mais non, ça ne sera aucune. Tout ça, ça sera fini. Comme disait un père qui avait un cheveu sur la langue, c'est un dominicain de Bordeaux. C'est lui qui disait, en matière ecclésiastique, c'est ce qu'on fait de plus chic comme habit. L'habit dominicain, ce qui est vrai, mais non. Et alors, il disait aussi autre chose, le ciel, mes frères, c'est là où on fait ouf. C'est assez théologique. On fait ouf. Ben, on y est, quoi. Non, mais on fait ouf, mais en même temps, vous voyez, je vais vous dire une chose, là, je vais vous donner un petit témoignage d'agnostic converti grâce aux exercices de Saint-Ignace. C'est vous dire... quand même ce qu'est l'église, c'est quelque chose de merveilleux. Et alors, en fait, un des avantages d'avoir la foi, moi, personnellement, je me dis, je suis un peu tordu par la métaphysique, peut-être, c'est que les choses prennent une densité. Pour le type qui n'a pas la foi, ben, vous pouvez gommer les trucs, mais, et les êtres sont falots, parce que ce qui compte, c'est vous, quoi. C'est le moi. Donc, les autres, ils n'ont pas... Tandis que là, vous les voyez vraiment comme des facettes de Dieu. Et donc ils ont une densité et tout devient intéressant dans leur vie, dans tout ce qui... Vous voyez, le père qui approchait notre tête au mois d'octobre nous disait, vous savez, je fais beaucoup de direction spirituelle et je fais surtout beaucoup d'écoute. Et quand on écoute les gens, on s'aperçoit que la vie des gens est intéressante. Quelles que soient les soi-disant fadaises qu'ils vous racontent, c'est toujours, il y a un chemin, il y a quelque chose qui est une facette de l'idée de Dieu qui se réalise dans l'histoire du monde. Et ça c'est passionnant et au ciel ce sera comme ça. On verra ça.